I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, c'est un épisode à la cool avec un petit peu de fun pour la WWDC. On a un peu de science avec de la femtoseconde et un peu de sérieux quand même avec de la santé mentale et des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément responsables de ce qu'on croit. C'est tout de suite pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le rendez-vous tech numéro 559. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir aux côtés de... Alors vous êtes tous invités, hein, vous qui m'écoutez, tous et toutes, ainsi que Cédric Deluca qui est là à la table. Elle est un peu grande hein, la table, il y a quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes en même temps. Mais fais-toi une petite place, viens, installe-toi là. Comment oui, ça va Cédric ?
Très bien, écoute, après un week-end magique au Futuroscope, alors je sais pas si on peut dire magique, mais après quelques jours en tout cas
au Futuroscope, scientifique
cool avec les enfants. Ouais, alors justement, si tu me laisses deux secondes.
Ok. Je te laisse.
L'informatique est en PLS au Futuroscope, c'est-à-dire que on nous explique qu'on va se digitaliser dans le cloud et tout ça, si tu veux. Bon, c'est un peu, comment dire, de la vulgarisation ultra vulgarisée qui veut rien dire à la fin.
Ah, tu veux dire que on va se digitaliser dans le cloud, c'est ce qu'ils disent au Futuroscope.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, c'est un spectacle pour les enfants, mais ça serait bien de commencer à pas leur dire des bêtises. Voilà, c'est tu juste sais, ça. Après, évidemment, il y a des choses qui sont basées sur la science et tout et qui sont cool, mais ça a vachement changé. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à me retrouver avec Bioman, quoi, tu vois. Enfin,
Bioman, c'est pas très loin de ça. C'est quoi. Bioman qui donne des cours d'Internet Explorer, c'est ça ?
Ouais, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Okay. Allez, les enfants, on va surfer sur Internet. Prenez tous votre planche digitalisée pour aller dans le cloud. Ouais, ok, super.
Tu
merci,
sais,
non, c'est pas ça la vraie vie.
C'est le problème, la malédiction du savoir. Quand on connaît un domaine et qu'on entend quelqu'un qui essaye de vulgariser en parler, on n'est jamais content. Tu vois, c'est le truc, quand un médecin qui regarde des émissions, des séries, genre un médecin qui regarde ER, c'est facepalm sur facepalm. Un informaticien qui regarde les hackers du Pentagone dans les films, bah évidemment, alors, on a l'impression que...
Alors, juste un truc, il y a quand même un spectacle avec un robot, justement, où il y a un mec qui programme le robot et à un moment, en fait, il doit corriger un truc dans le programme. Et en fait, au moment de coder, il a une tablette et en fait, il fait toute une chorégraphie où il saute et tout. Ma femme, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « C'est comme ça que vous apprenez à coder à l'école ?» Alors non, pas du tout. Pas bien, c'est un spectacle de danse, mais sérieusement, c'est…
tu dis ça, mais c'est parce que tu ne sais pas comment codent les vrais codeurs comme Corben. Corben, qui est là avec nous aujourd'hui, dès qu'il se met à sortir, il sort son texte edit pour coder à la main, et sans balises ni rien, il se met à danser, n'est-ce pas Corben ?
Bah ouais, je danse, et puis c'est l'IA qui code, tu vois, moi j'ai le temps de danser.
C'est l'IA qui interprète ta danse interprétative et qui transforme en code, je comprends.
C'est ça, c'est le nouveau chef de projet, quoi.
Chef de projet IA danseuse. Écoutez, je suis très heureux de vous avoir avec moi pour danser et chanter peut-être, puisque aujourd'hui, ça va être un épisode un tout petit peu plus cool. Il y avait un peu moins d'actu pour autour de Pâques, généralement, c'est un peu plus calme. Et en même temps, je me suis dit, bon, on stresse tout le temps, voilà. Et il n'y a pas eu de fausses infos du 1er avril cette année, je crois que c'est la première fois. Vraiment,
si, y en a eu plein.
Tout le monde... Ah, il y en a eu ? Moi, je ne les ai pas vus.
Ah oui, ah ouais, moi, moi j'en ai fait une.
Ouais, mais toi, quand même, ça ne me surprend pas. Mais
non, mais il y a pas mal de choses.
Je sais que tu n'aimes pas ça, mais bon, moi, j'aime bien.
Mais ça dépend, on aime bien quand elles sont drôles. Le problème, c'est qu'elles ne sont jamais drôles. D'ailleurs, allons voir tout de suite ce qui nous a fait Corben comme blague du 1er avril.
Ah, moi, je peux te la raconter parce que là, maintenant, elle est enterrée sous les autres articles. Mais en gros, je me suis inspiré du news il n'y a pas très longtemps.
Corben.fr n'est pas sécurisé ?
Non, mais c'est point info, moi. Ça fait 20 ans que c'est point info. va falloir se mettre à la page, Patrick.
Ça ne fait que 15 ans qu'on se connaît, Corben. Je suis un peu lent, tu vois.
C'est vrai.
D'accord, dis-moi.
Et donc, j'ai parlé d'une grosse annonce, d'une mise à jour sur les télésmartphones Xiaomi, où ils allaient enlever les applications, l'application pour téléphoner, l'application SMS, parce qu'en fait, tout passe par WhatsApp et les messageries, etc. Voilà, et la boulette que j'ai faite, oui, c'est pas drôle, mais...
C'est pas très drôle, mais surtout, c'est relativement crédible, limite, tu pourrais dire ouais.
Ah oui, c'est ça, mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça soit crédible, que tu lis jusqu'au bout, avant de te dire, merde, putain, il m'a eu, quoi. Tu vois, ouais. Moi, c'est ça l'objectif, c'est pas de faire marrer les gens. Et le truc où je me suis planté grave, c'est qu'en fait, c'est moi, tous mes articles sont programmés, donc ça va faire 3 semaines qu'il est dans le pipe, et il est parti en newsletter la semaine dernière, donc il y a des gens qui l'ont reçu, que c'était une vraie info en newsletter, et ils m'ont écrit, ils m'ont dit, ouais, c'est quoi cette merde et tout là, là. Oups, on annule tout, les gars. Donc, j'ai dû faire un erratum, renvoyer une newsletter à tout le monde pour dire désolé, bon, bah, vous avez eu le poisson d'avril.
C'est le stagiaire qui a fait une vanne.
C'est ça.
Tu peux blâmer ChatGPT. C'est ChatGPT qui a fait le truc. C'est pas mal. Figure-toi que ma newsletter a atteint 3000 abonnés. Alors, c'est rien, je suis sûr que toi, t'en as 150 000. Mais,
c'est
3000 abonnés, je pensais pas que. Et genre, ça monte toutes les semaines. C'est fou. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés.
Et comme c'est newsletter payante à 10 euros par mois, vous jouez.
Mais oui, c'est ça. Vous vous rendiez pas compte. Alors, les gens qui la reçoivent, merci pour tout l'argent que vous m'envoyez. Hein. Vous saviez peut-être pas parce que je le fais un peu discret, mais j'ai les numéros de carte bleue. Non, évidemment, elle est gratuite. Là,
c'est débité directement de votre facture téléphonique.
C'est ça. Ouais. Vous saviez pas. Vous savez les petits frais en plus sur la facture téléphonique que personne comprend jamais. Il y en a un, c'est NPTRCK, c'est quoi ça? Eh oui, c'est la newsletter de notre Patrick. Non, elle est gratuite, 3000 personnes qui sont abonnées, plus de 3000, avec un taux d'ouverture de folie. Les gens sont intéressés par cette newsletter. On est à genre 60% de taux d'ouverture. Généralement, c'est genre 15% les newsletters.
Donc,
bon, bref. Ça, c'est la newsletter. Je voulais aussi remercier, avant qu'on se lance dans la WWDC et nos prédictions pour la WWDC, je voulais remercier les patriotes de la semaine. C'est chaud, pour qui ça a l'air d'être un peu chaud, et Cordier, ou eux Cordier, et Robiche, merci à vous trois d'avoir rejoint le Patreon sur patreon.com/rdvtech, et merci également à Stéphane Lioret et Lancelot Davizard, les producteurs de cet épisode spécifiquement. Merci à vous tous, et si vous voulez rejoindre les formidables patriotes, qui ont d'ailleurs un petit bonus dans la newsletter, des liens en plus, des liens cool, eh bien vous savez où ça se passe, les liens sont dans les notes de l'émission. Et tiens, à propos de newsletter, il y a un article un petit peu plus tard qu'on commentera peut-être, mais j'aime bien les groupes, les chaînes WhatsApp. Tu connais un peu, Cédric, je ne demande pas parce que tu produis moins de contenu sur l'Internet aujourd'hui, mais Corben, tu t'es déjà intéressé au broadcast channel WhatsApp?
Alors, pas WhatsApp, non, Telegram, ouais, mais pas WhatsApp.
Donc, c'est un peu les mêmes, hein. Peut-être que tu préfères Telegram. Mais WhatsApp, il y a quand même genre 2 milliards de personnes dans le monde. Mmh. Je suis en train de regarder les channels WhatsApp, je suis en train de tester des petits trucs. D'ailleurs, peut-être que je vais vous mettre un lien dans la chatroom ou au Patreon pour aller...
Nous, on est en train de l'étudier aussi.
C'est vrai?
Pour l'école, bêtement. Bah, oui.
C'est en train de devenir assez populaire, ces trucs-là. Tiens, je vais vous mettre dans la chatroom.
En plus, il t'en propose tout le temps. Hein. Moi, quand tu vas sur la page d'accueil, typiquement, il te propose de rejoindre des groupes, soit autour de communautés spécifiques, soit autour de thèmes spécifiques, en fait.
Ouais.
Et c'est pas mal.
On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous mettrai le lien vers la... C'est vraiment en test. Hein. Je suis en train de regarder ce que ça peut donner, pas donner. Il y a des messages qui apparaissent, qui disparaissent. Mais c'est vraiment en train de devenir assez populaire. Ben, on en parlera plus tard dans l'émission. Pour le moment, on se lance dans les news les plus importantes de la semaine avec première information dans la section des informations essentielles. Et on va commencer tout de suite avec Apple. Et oui, Apple a annoncé la WWDC 2024, la conférence de développeurs évidemment que vous connaissez. Et c'est une surprise pour personne, elle aura lieu en juin. Mais le plus important de cette annonce, c'est pas tant ce qu'ils ont annoncé que le commentaire de Greg Joswiak, qui est le directeur du marketing chez Apple, et il a fait un tweet incroyable dans lequel il a dit que cette conférence va être super formidable et tout, et absolutely incredible. Alors là, vous dites, bon, enfin, Patrick, un type d'Apple qui dit qu'une conférence va être incroyable, oui, merci, on s'en doute. Et non, ça ne vous aura pas échappé puisque vous êtes intelligent, vous qui écoutez le Rendez-vous Tech. Mais absolutely incredible, c'est AI. Et AI, ça veut dire Intelligence Artificial. Et donc, Greg Joziak et donc Apple avouent enfin qu'ils travaillent sur l'IA. Ils ont jusqu'à maintenant, dans leur conférence précédente, alors que tout le monde les attendait sur l'IA, ils ont choisi de parler spécifiquement, et les mots sont importants, ils ont choisi de parler de modèles de langage et de toutes autres formes de synonymes pour ne pas dire le mot intelligence artificielle, pour ne pas rentrer en confrontation directe avec leurs concurrents avant d'être prêts. Là, visiblement, il dit ça va être AI avec des A et I majuscules et donc ils sont prêts à y aller. C'est pas si surprenant que ça parce que évidemment, il était temps qu'Apple rattrape son retard sur l'intelligence artificielle et aussi depuis plusieurs mois, on commence à avoir de plus en plus de papiers de recherche d'Apple sur le sujet de l'IA. Donc de chercheurs d'Apple qui font état des résultats, et de résultats parfois assez impressionnants dans différents domaines, je ne vais pas tout vous résumer, mais il y a des domaines intéressants comme le fait de combiner plusieurs IA pour fonctionner en tandem, enfin de concert. Il y a le fait d'utiliser des IA d'une manière innovante pour vraiment comprendre ce qui est affiché sur l'écran de votre téléphone, des choses de ce type-là. Et on va parler peut-être dans l'émission de nos prévisions pour la WWDC, mais moi j'ai l'impression que Apple a vraiment une opportunité assez unique d'implémenter une IA d'une manière que d'autres acteurs de cette industrie en sont incapables. Parce que Apple a vraiment, il touche tellement de domaines de votre vie qu'ils en touchent plus que n'importe qui d'autre. Ils touchent, par exemple, vos communications avec les mails ou les messages. Ils ont votre emploi du temps avec votre calendrier, votre travail avec, encore une fois, votre calendrier, vos mails, vos proches, les gens avec qui vous parlez, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais les communications, c'est quelque chose auquel ils peuvent toucher, auquel ils ont accès, les SMS et les iMessage. Il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, les loisirs avec la musique, et la télévision ou les séries. Alors évidemment, c'est plus le cas si on est dans l'écosystème Apple avec Apple Music ou Apple TV, ce genre de choses. Mais jusque dans les loisirs, ils ont des informations que d'autres n'ont pas. Et jusque dans la santé, puisque évidemment, Apple est très impliqué dans la santé. Et en particulier pour ceux qui ont une Apple Watch, eh ben, ils ont des informations que d'autres acteurs. Alors oui, certains en ont certains éléments. Google va avoir certaines informations, Amazon va avoir certaines informations, Facebook en a peut-être autant, presque autant qu'Apple. Mais la grosse différence entre ces autres gros acteurs et Apple, c'est que généralement, Apple, on leur fait confiance. Ils ont beaucoup insisté sur les questions de sécurité et de vie privée depuis des années. Et donc, si Apple vous dit, ben, on a une super IA qui va faire plein de trucs. Si vous nous laissez accéder à vos données privées, et bien sûr, elles resteront complètement privées, et ben, on aura peut-être plus tendance à faire confiance à Apple qu'à un autre acteur dont les revenus sont basés plus sur la pub, par exemple. Et du coup, si on combine tout ça à l'expertise matérielle et logicielle d'Apple, avec des performance assez incroyable, notamment avec les super puces M1, M2, M3 et A17, A18, les puces conçues par Apple, qui sont notamment spécialisées dans l'intelligence artificielle, eh ben, ils ont pour moi une opportunité chez Apple d'implémenter de manière assez unique l'intelligence artificielle pour en faire un assistant qui utiliserait peut-être plusieurs modèles différents. Ils pourraient utiliser à la fois Midjourney, Gemini, des trucs internes à Apple, composer un modèle qui utiliserait toutes vos données, qui resterait complètement privé, pour faire un assistant qui serait cadré spécifiquement sur vos besoins, sur vous en fait, qui ne serait pas ChatGPT, donc ChatGPT en général que tout le monde utilise, donc tout le monde utilise à peu de choses près le même ChatGPT. Là, ça serait votre assistant à vous. Et je vais même, dans l'audace des prédictions, jusqu'à dire qu'il serait peut-être possible, pour symboliser un petit peu cette personnalisation que ça serait votre assistant, de lui donner des trucs beaucoup plus grand public, beaucoup plus accessibles, comme aime le faire Apple, une personnalité que vous pourriez définir, un nom que vous pourriez définir, et donc ça serait votre butler. Vous pourriez dire « Dis Alfred, prépare la Batmobile » ou lui donner vraiment, en faire le truc pour vous. Évidemment, les gens, l'élite de la nation l'appellerait Bot Patrick et lui demanderait le meilleur podcast de l'histoire. Mais vraiment, voilà, cette idée de créer des assistants personnalisés pour chacun plutôt qu'un Siri générique qui serait bien sûr le défaut, ou un ChatGPT ou un Google Assistant, ça pourrait être un truc que Apple pourrait bien faire et je crois mieux faire que d'autres. À voir. Donc évidemment, il y a ce gros volet IA, il n'y a pas forcément que ça qui sera évoqué dans la WWDC. Cédric, est-ce que tu as peut-être un commentaire sur ce que je viens de dire et puis tes propres prédictions pour la WWDC ?
M'emballe, Patrick.
Je m'emballe un peu. Hein. Peut-être que ça serait la version, genre dans 5 ans ou 10 ans, ça serait comme
ça.
Moi, je trouve que tu t'emballes pas, moi, je trouve.
Non, c'est vrai.
Non. En fait, quand je dis tu t'emballes, c'est pas tellement ça. C'est que. Alors, déjà, je vais rectifier juste un truc. Quand tu dis aujourd'hui, c'est les seuls à pouvoir faire ça, etc. Sur leur device, parce qu'ils maîtrisent le matériel, le fait d'intégrer cette IA en local, par exemple, qui traiterait tout ça. C'est pas tout à fait vrai, puisque chez Google, il y a Gemini Nano qui est fait pour tourner on-device sur les terminaux Android pour justement éviter l'écueil de la vie privée, etc. Essayer de regagner un peu en confiance sur ça. Par contre, après, là, je te rejoins sur l'idée... Le privacy washing, en tout cas, qu'a fait Apple depuis ces dernières années, aujourd'hui, fait que s'il y a une société dans laquelle on peut avoir un peu confiance, en tout cas, sur le traitement des données type santé, etc., c'est plutôt Apple. Quand on sait comment marchent les données de santé sur Apple, qu'elles sont dans l'enclave sécurisée du téléphone et que le transfert d'un téléphone à l'autre, et en fait, on le voit qu'en fait, ces données-là ne sont pas stockées dans le cloud chez Apple. En fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est une évidence. Et que d'ailleurs, si on perd son téléphone ou qu'on efface ces données-là, elles sont définitivement effacées. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc ça, effectivement, puis, sur ce côté-là, je te rejoins.
Effectivement, Google, il a certaines briques. Tous ont certaines briques de ces
trucs. Mais avec Fitbit, Google a plus que certaines briques. Hein.
Bien sûr, aujourd'hui, tu ne vas pas forcément leur faire confiance sur tes communications, par exemple. Ils ont déjà Gmail, tout ça, ta recherche et tout. Tu te dis, c'est la pub, quoi.
Moi, s'il y a un point sur lequel je ne fais pas confiance à Google, c'est le fait que ce service dure plus d'un an et demi. Et qu'ensuite ils soient remplacés ou ils finissent au cimetière des services Google. C'est plus ça en fait. Moi, ma confiance en Google s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils disent finalement, il n'y a pas moyen de gagner ou de monétiser plus que ça. Bon, allez, poubelle. Donc, je préfère avoir un truc pérenne et me dire, je suis dans mes habitudes et le truc va fonctionner le plus longtemps possible en tout cas. Évidemment, parfois ça finit par disparaître, mais ça, c'est autre chose. Mais dans l'idée, je te rejoins sur l'idée qu'effectivement, Apple a cette possibilité d'exécuter des modèles locaux. On l'a vu effectivement, des papiers de recherche, j'en parlais ce matin. Alors, tu disais que je ne produisais plus trop de contenu, mais en fait, je fais une matinale tous les matins du 8 à 9 sur la chaîne de l'école. Mais justement, on parlait ce matin avec un étudiant justement des papiers de recherche de Google, en fait, de Apple, sur le fait que finalement, cette nouvelle IA, donc je ne vais pas l'appeler Siri, mais ce nouveau produit en tout cas, est capable de lire ce qui se passe à l'écran et du coup d'avoir un contexte. C'est ça aussi la particularité. C'est-à-dire qu'on a le contexte en fait, de tout ce qui est affiché à l'écran, peu importe le logiciel sur lequel. Ça veut dire que cet assistant, en tant que développeur, on n'est pas obligé de se dire « je vais utiliser l'API de cet assistant pour l'ajouter à mon navigateur Internet ». Non, on parle d'un truc qui est au niveau de l'OS. Donc, ça signifie que peu importe le navigateur que tu utilises, il comprend le contexte de ce que tu es en train de faire.
Oui. Google avait montré des trucs similaires, hein, mais là, visiblement, ça va un petit peu plus loin avec ce que fait Apple.
Là, ça va au-dessus. C'est pas mal aussi pour esquiver le DMA, dans le sens où on n'est pas obligé de porter son truc sur tous les navigateurs, ouvrir son navigateur. Là, c'est au niveau de l'OS, c'est comme ça. Ouais. C'est une fonctionnalité de l'OS, finalement. Voilà. Là où je pense que... il risque d'y avoir des problèmes. Et justement, en prenant ce niveau de l'OS, il s'évite le... Oui, mais votre truc, il n'est pas interopérable. Si j'utilise un autre navigateur, je ne peux pas utiliser l'IA intégrée, etc. Là où j'y crois un peu moins, c'est sur l'intégration de cette IA dans des logiciels ultra spécifiques, type Numbers, Pages, etc. Je crois sincèrement qu'il va y avoir de la correction orthographique améliorée, ce genre de choses. Le fait de le mettre au niveau de l'OS, cette strate-là, c'est la strate pour s'éviter les foudres du DMA, clairement. C'est se dire, en fait, nous, c'est compatible de tout logiciel, peu importe le logiciel de montage, que tu utilises Excel ou Numbers.
Ça, c'est spécifiquement pour lire strate. L'écran sur des trucs, comme tu dis,
mais du coup, apporter
Numbers
des réponses
et tout ça.
Spécifiques.
Oui, bien sûr.
Oui, mais non, mais tu pourrais. C'est-à-dire que typiquement, je suis en train de rédiger une lettre de motivation dans Pages, Et là, je demande à mon assistant, améliore le texte que tu vois dans ce document, en fait. Et il va lire le document et il peut l'améliorer, en fait. C'est tout à fait possible. Donc,
non, et puis aussi, il peut avoir, si tu utilises Pages et tout ça, il peut utiliser ces documents pour informer tes requêtes quand tu dis qu'est-ce que j'avais comme budget.
Exactement.
Mais bon, il faut utiliser Numbers et Pages. Là, il faut vraiment être à fond dans l'écosystème.
Mais justement, ce que je veux dire, c'est que justement, là, l'idée, c'est que il va passer au-dessus de ça. C'est-à-dire que je sens bien le truc arriver où ça va être au-dessus de ça. Exécuter localement, ça, c'est une évidence. Moi, ce que j'attends surtout, depuis des années, parce qu'on parle d'IA, mais l'IA, ça permet aussi une grosse chose qui est l'automatisation. Et pas uniquement juste de la génération de texte ou de l'analyse, etc. Et là où ils ont un truc à faire, c'est avec l'application raccourci. Aujourd'hui, il y a une application raccourci que peu de gens utilisent sur iOS, qui pourtant permet de faire des automatisations vraiment poussées, du genre j'arrive à la maison, si dans telle condition, si une personne en particulier est à la maison, dans ce cas-là, tu fais ceci ou tu fais cela. Bon, ça, c'est pour la partie domotique, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive au travail, raccourci bascule automatiquement mon téléphone dans un certain mode focus, affiche que certains trucs sur mon téléphone. Ça m'ouvre automatiquement l'application qui me permet aujourd'hui de pointer, de regarder mon emploi du temps, etc. Enfin, ces automatisations qui sont extrêmement basiques, mais qui peuvent aller plus loin que ça. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, en fait, pour faire ça, il faut avoir à minima une logique de développement. Enfin, c'est des ifs.
Si, mais c'est ça.
Pas non plus un truc hyper avancé, mais n'empêche que. C'est un IFTTT intégré à l'OS. Et là, demander à l'assistant, quand j'arrive tous les jours à cet endroit, j'aimerais que cette application s'ouvre, que ça clique sur tel bouton et que ça fasse tel truc, et qu'en gros, le truc dise, OK, le raccourci a été créé, merci, bisous, au revoir. Et voilà, la magie
et
est
c'est
là.
Exactement un des outils, une des capacités incroyables de l'IA, qui est de faire une interface homme-machine qui fonctionne pour comprendre ce que tu veux faire, et donc notamment coder, ce qu'utilise d'ailleurs beaucoup Corben. Voilà. Lui, il code plus, il danse.
Et avant d'enchaîner avec Corben, WWDC dit développeur, dit Xcode, dit Swift 6. Moi, je verrais bien débarquer justement dans Xcode le fameux copilot qu'on a partout dans Visual Studio Code classiquement et de nous proposer un assistant pour dev en Swift tout simplement. Quoi. Voilà.
Corben, toi, tu utilises l'IA. Ouais. Et d'ailleurs, on se concentre sur l'IA parce que c'est évident. Bon, il y aura Vision OS 2.0, il y aura iOS 18, iPadOS 18, tvOS, machin. Il y aura tout ça aussi. Mais là, à ce stade qui est intéressant, c'est l'IA. Si vous voulez parler de ces autres updates, évidemment, on peut le faire. Mais Corben, dis-moi.
Écoute-moi, en fait, là, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Et c'est des trucs auxquels j'avais pensé aussi, notamment sur les shortcuts. Je trouve que c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder justement les papiers de recherche dont vous avez parlé. Et en fait, ça, c'est clairement intégré. C'est-à-dire que vous avez parlé de ce qu'il y a à l'écran. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'il y a en arrière-processus. Tu vois, c'est-à-dire les rendez-vous que tu as, les alarmes que tu as programmées. Les lieux où tu as été, etc. Et tout ça, en fait, ça va faire ce qu'on appelle un RAG. En gros, tu as de la data à toi et lui va aller piocher dedans pour récupérer les infos dont il a besoin et te faire, comme tu disais, une IA un peu personnalisée avec tout ce qu'il faut. Et donc, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que s'ils intègrent ça au sein de Siri, je pense que ça va se faire avec Siri, en porte d'entrée en tout cas. Parce que du coup, on aura. En fait, Siri va devenir intelligent. C'est-à-dire que là, Siri, je suis obligé de lui répéter trois fois les trucs. Là, Siri va comprendre. Siri va être rapide.
Il va être capable de reformuler s'il a pas bien compris, d'ailleurs.
Va proposer des choses. Et puis surtout, ça va s'intégrer avec ce qui existe déjà, en fait, au niveau des applis tierces. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'imagine. C'est-à-dire qu'une appli tierce.
Les applis tierces, j'y crois pas trop encore, moi, mais.
Ah, il y a quand même des intégrations avec Siri qui existent. Et si tu mets une couche IA par-dessus, tu peux très bien avoir des couches IA qui s'intègrent qui vont chercher en externe dans des applis tiers. Donc tu peux dire, Siri, donne-moi telle info de telle appli qui n'est pas une appli Apple. Et lui pourra peut-être aller interroger l'appli, récupérer l'info, et voilà quoi, tu vois.
Mais tu sais, ce genre de choses dont tu parles, c'est un petit peu l'application évidente de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas vraiment spécifique à Apple, parce que la grosse force des modèles de langage tels qu'on les conçoit depuis ChatGPT, c'est que justement, ça marche. Et donc, ils fonctionnent et ils comprennent ce qu'on dit. On n'a pas besoin de formuler spécifiquement une séquence de mots pour lesquels elle a été scriptée pour comprendre l'IA. On peut lui dire un petit peu ce qu'on veut et elle se dépatouille et elle se débrouille pour comprendre ce qu'on voulait dire. Elle comprend le contexte. Donc ça, c'est un petit peu le truc. Enfin, s'ils font pas ça au minimum.
Ouais, mais par exemple, tu cherches un mail, tu te dis trouve-moi le mail que Patrick m'a envoyé à telle date et qui parlait de ça. Elle se démerde, elle te trouve le mail. Ouais. Mais bon, ça, effectivement, c'est des usages lambda, mais ça gomme un peu l'interface, en fait, au final, entre où tu vas galérer ton appli à chercher tel truc ou machin.
Ouais.
Et avec l'intégration, donc là, on parle du texte, mais il y a aussi la reconnaissance de tout ce qui est visuel. Là, tu demandes à Siri de te lire un SMS, tu m'envoies une photo de toi, je ne sais pas ce qu'il y a sur la photo. Si je suis en voiture, par exemple. Là, avec la reconnaissance visuelle, je vais pouvoir savoir ce que tu as mis sur la photo. Et ce Exactement. Genre de choses, en fait. Tu vois, on aura du main libre, un peu plus main libre et plus intelligent que ce qu'on a déjà. Quoi.
Et moi, il y a un truc que Apple fait pas trop mal, c'est les suggestions Siri. Vous savez, ces apps, quand on tire le tiroir d'app, alors moi, je les utilise pas mal parce que vraiment, en fonction de mes habitudes et de mon contexte, en fait, elle sait que à tel moment, je vais ouvrir telle app, etc. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Et en fait, tu vois, par exemple, quand je prends ma voiture à une certaine heure, quand il y a un pattern, elle me propose automatiquement, par exemple, l'itinéraire vers le travail, vers mon domicile ou vers la crèche du petit en fonction de l'heure et du contexte. Mais en fait, moi, j'aimerais un peu de proactivité. Alors, ça va être un peu intrusif, mais ça devrait pouvoir s'activer ou se désactiver, mais un peu de proactivité. C'est du genre, il est 16h, il sait que je vais chercher normalement mon fils à la crèche et il peut me poser la question. Est-ce que vous allez bien chercher votre enfant à la crèche, par exemple, ou chez la nounou, et suggérer un itinéraire ou justement anticiper, me dire, attention, la circulation se charge. Là, si vous êtes censé aller chercher votre enfant aujourd'hui, il faudra peut-être anticiper le départ. Ce genre
mais est-ce que ça, on a besoin de l'IA générative pour ça ? Ça serait possible déjà aujourd'hui, quand même.
Ça serait, évidemment que ça serait possible aujourd'hui, mais le truc, c'est la verbalisation, enfin la synthèse de ça. La simple petite notif, c'est une chose, mais par exemple, j'ai un HomePod au bureau, j'aimerais bien qu'il me parle, en fait, bêtement.
Ouais,
tu vois, qu'il y ait une petite, ou un petit bip, ou un petit truc, ou, tu vois, ou que visuellement, le truc soit allumé, et que je lui demande qu'est-ce qu'il y a, et qu'en fait, il me réponde. En gros,
qu'est-ce que
t'as ? Mais oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, tu vois, il me propose un truc. Mmh. Ou si je lui dis, tiens, tous les jours, essaie de me rappeler qu'il faut que je sois à l'heure chez la nounou. Mais plutôt que d'avoir un rappel bête, on a un rappel intelligent qui est attention en fonction du trafic, machin, etc. Ou tu vois, ce genre de choses, en fait.
Qui pourrait,
et j'aimerais vraiment qu'on arrive à
ça. Dit Cédric. Et tu lui dis, non, mais pas maintenant.
Ouais, c'est ça. Okay, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse, en fait.
Ouais, c'est dit Cédric. C'est ça, en fait, l'IA. C'est toi qui deviens l'assistant de ton IA qui lui permet de bien bosser.
Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle tourne en local aussi, parce que il y a Apple a sorti un framework qui est génial. Moi, je l'ai testé, MLX là, pour les architectures silicone, et en vrai, c'est ultra performant, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu fais tourner la même chose avec Torch ou sur ton ordi en Python, ça va aller taper dans le ça va faire un peu ramer, ça va taper dans les hauts du CPU, enfin du CPU, on va dire ça. Mais là, du coup, c'est vachement mieux géré, c'est super rapide, tu gagnes en perf. Et donc,
je pense qu'ils utilisent à donf toute la partie Neural Engine, en fait.
Je l'ai testé sur Silicon, quoi, en gros, sur le M3, mais je l'ai pas. Enfin, je sais pas si tu as exactement la même chose sur l'iPhone, mais j'imagine sur les
devices. Sur le M2, oui, en tout cas, c'est extrêmement performant.
Ouais. Sur l'iPhone, je sais pas comment ça se gère, mais en tout cas, je pense que si les puces sont là. En tout cas, là, sur le dernier papier qu'ils ont sorti sur un truc qui s'appelle Realm, ils parlent de perfs qui sont équivalentes, voire supérieures à celles de GPT-4 en termes de rapidité et puis de compréhension, etc.
Reference resolution as language modeling.
On peut avoir un Siri qui tourne en local, super balèze, qui connaît tout de toi.
Mais c'est pour ça, vous voyez, à chaque fois qu'on parle de tous ces sujets, on évoque en fait plein d'éléments différents dont les autres acteurs en ont certains, mais dont je crois seuls Apple
pas la globalité.
Les a tous, quoi.
La force de l'écosystème.
C'est ça, en fait. C'est la plateforme. Ça.
C'est-à-dire que moi, elle sait quand j'ai fait ma dernière séance de sport, enfin l'IA, je parle quand je dis elle, hein, pas Siri, hein, mais en gros, si c'est ces données-là, en fait, même ce que je mange, combien de temps j'ai dormi, mes trajets quotidiens, à quel moment j'allume et j'éteins la lumière chez moi, enfin, je veux dire, ces données existent.
L'analyse des photos aussi.
Oui, mais voilà, mais tout mon home kit, en fait, je suis full home kit à la maison. Donc, il y a des suggestions, même de scénarios, déjà sur l'écran de verrouillage du téléphone, enfin sur le comment ça s'appelle, mince, là où il y a les
petits
raccourcis là, Non, j'ai oublié le nom. Tu sais, quand tu slides depuis la batterie en haut à droite.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oui.
Oui, je vois les raccourcis.
Le petit réglage Wi-Fi. Ouais, là, c'est ça. Et bien, en fait, au milieu, il y a une partie sur HomeKit. Et moi, en fait, il vise toujours juste. C'est-à-dire que là, je suis au boulot. Il sait que ma serrure connectée, il faut qu'il me la mette là. Et donc, quand je pars le soir, j'appuie, ça me verrouille mon bureau. Mmh. Ça éteint toutes les lumières et tout. Et quand j'arrive chez moi, en fait, bah, j'ai la scène que j'utilise quand je regarde la télé le soir ou pour le repas. Mmh. Tu vois, j'ai des scénarios enregistrés. Ouais. D'habitude, je prononce à la voix. Mais si je veux, en fait, ils sont sur mon home screen. Et en fait, il faudrait juste rendre ce truc-là plus efficace. Quand j'arrive, il le détecte. Bah, limite, mon pote va me dire...
Je crois qu'on est...
Est-ce que vous voulez quelle scène, tu vois, enfin, voilà.
Après, je crois qu'on est un petit peu en train... Ce que tu évoques, Cédric, et qu'on est un petit peu en train de passer, à côté, c'est simplement le fait, en fait, que ce que permet véritablement ces modèles de langage, et c'est ce qu'on dit depuis des mois et maintenant des années, c'est de parler à notre ordinateur et qu'il puisse nous parler et qu'il nous comprenne. Donc simplement, la promesse de Siri, qui est d'avoir une interface homme-machine qui soit le langage, eh ben là, elle pourra être réalisée. Et ensuite, tout ce qui marche différemment, enfin, toutes les fonctionnalités techniques en dessous, que ça soit l'accès aux données, la plateforme matérielle logicielle, les algorithmes d'intelligence artificielle et de langage de modèle de langage, etc. À la limite, on s'en fout. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir parler et ils vont pouvoir nous parler, ces intelligences artificielles vont pouvoir faire ça. Moi, j'ai hâte
que... la technologie s'oublie.
Mais c'est ça, complètement. En fait, et c'est ce que Apple fait de mieux, il fait oublier la technologie.
Exactement. Moi, j'ai hâte qu'il y aura un effet waouh de dingue, quoi. Quand ils vont faire des démos, les gens vont pas savoir ce qu'il y a derrière, mais ils vont faire waouh, trop bien.
Et après, faudra voir si ça marche vraiment dans la vraie vie. Ça sera une autre histoire, parce que vraiment, comme toujours. Mais moi, j'ai hâte que mon IA me dise, dis Patrick, bon, arrête de t'emballer sur la WWDC, là. Tu te calmes, franchement, là. Et il y a d'ailleurs dans la chatroom, on nous dit êtes-vous en route pour aller chercher le petit à l'école? Oui, Siri, oui, tout à fait. Chlong pose la manette sur la table basse. Oui, bien sûr.
Ah non, on vous a géolocalisé à la maison, vous déconnez là.
C'est ça, vous êtes bien en train de vous préparer, tu sais, cher Cédric.
Ah non, c'est bon, on a déjà tous une femme, c'est bon. Non, pardon, le... oui, bien sûr, je suis en route. En fait, le truc, c'est que y a un truc qu'on oublie, c'est que Microsoft a déjà fait cette démo il y a quelques années. Rappelez-vous, vous savez, ils font des vidéos de projection du futur et il avait fait avec Cortana. Feu Cortana. Elle existe toujours, mais il avait fait avec Cortana où une jeune femme se déplaçait, disait est-ce que tu peux préparer mon mettre un rendez-vous demain machin. Ah non, vous avez tel rendez-vous à tel endroit, c'est pas possible. Voulez-vous déplacer le rendez-vous? Oui, ok. Ben dans ce cas-là, tu le déplaces. Envoie un mail de rappel à machin, etc. Des trucs qui aujourd'hui nous semblent ultra basiques, mais la démonstration qu'il faisait, c'était une conversation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez vidéo.
Non, mais il y a même beaucoup, il y a eu beaucoup de vidéos un petit peu futuristes, genre c'est ça que seront vos IA, vos assistants intelligents dans le futur.
Peut-être que c'est le moment.
Peut-être que c'est maintenant. Ouais. Cette section, c'était un peu de fun parce que clairement, on s'amuse à essayer de prévoir un petit peu tout ça. Il y aura sans doute du vrai. Moi, ma prévision audacieuse des assistants genre personnalisés pour chacun, peut-être qu'elle est un petit peu c'est un petit peu trop tôt pour ça, mais ça ne me surprendrait pas qu'ils visent ça, genre que ça ne soit pas juste Siri ou ChatGPT, mais qu'on puisse nommer et personnaliser qu'on ait chacun notre assistant personnel, pas le même pour tout le monde. Et ça, c'est un petit peu d'emballage, quoi.
À un moment, il parlait de synthèse des voix aussi, je me souviens.
Bien sûr.
Que tu aurais la voix de, je sais pas, tu m'envoies un message et ça le lit avec ta voix.
C'est déjà actif, ça. C'est actif pour les personnes qui justement sont atteintes de maladies et sont en train de c'est actif qu'en anglais et ils sont en train de perdre leur voix tout simplement.
L'objectif de base, mais n'importe qui peut le faire.
Oui, voilà, okay. c'est l'objectif de base. Alors toi, du coup, tu peux le faire et du coup, en fait, ça parle à ta place avec ta voix tout simplement. Et ça, c'est déjà actif, mais en anglais uniquement.
Et du coup, les IA. Qui parle avec la voix, combien vous payeriez pour avoir la voix de Patrick? Le fameux bot Patrick. Alors moi...
Souvenez-vous, les voix sur les GPS.
C'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques mois, mais pourquoi tu ne fais pas une voix Waze? Et c'est vrai que c'est facile à faire, tu peux faire une voix Waze. Bon. Moi, je pense que, tu vois, il y a des gens qui diront « un million d'euros, machin ». Non, moi, je dis 1 euro par mois jusqu'à la fin des temps. C'est pas mal. Tout le monde voudrait la voix de Patrick, non mal. Non, bon, peut-être pas.
Mais n'empêche que la voix de Patrick dans Waze, c'est bien parce que si t'écoutes le rendez-vous tech, t'es pas interrompu par une voix tierce. C'est la même voix qui te dit Si ça met le podcast en pause et ça te dit tourner à gauche.
Et au fait,
ok Patrick, et hop, tu reprends le podcast, l'immersion totale.
On oublie quand même la nouveauté la plus incroyable qui va sans doute être annoncée pour iOS 18, qui est d'ailleurs, on entend des rumeurs selon lesquelles ça serait une refonte importante de l'OS, la plus importante depuis le lancement selon Mark Gurman. Mais l'un des trucs, ça serait la possibilité de pouvoir placer les icônes où on veut, même avec des espaces entre les icônes. Et là, je sais que vous disiez, mais c'est pas possible, c'est ça le futur, c'est incroyable, poser des icônes là où on les veut. Et oui, Apple vous l'offrira sans doute dans iOS 18, il faudra attendre un peu, et peut-être qu'il faudra un iPhone 16, hein, parce que les précédents ne sont pas assez puissants.
Mais... Là, ouais. Le problème, c'est qu'on va se faire plus voler nos iPhones, parce que ça va ressembler à des Android.
Ouais, c'est ça, on verra plus la différence.
C'est un peu ça. Bon. Passons au deuxième sujet intéressant pour cette semaine, qui est un sujet où je vais un petit peu parler de science. Alors, pas vraiment, mais de l'émerveillement face à la science, en fait. L'Institut national de recherche scientifique du Canada a développé une caméra, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça une caméra à ce niveau, puisqu'elle est assez rapide, elle réussit à capturer 150 trillions d'images par seconde. Ça sera utilisé pour des trucs comme le fait d'étudier les ondes de choc dans les cellules ou dans de la matière. Enfin, c'est pour faire de la science, quoi. Mais à la limite, c'est pas tellement ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée même de pouvoir capturer 150 trillions, c'est un petit peu plus, 153, je crois, trillions, 156 trillions d'images par seconde, c'est l'échelle de la femtoseconde. Une femtoseconde, c'est 10 puissance moins 15 secondes. Si vous voulez une petite idée, une femtoseconde, c'est pour une seconde ce qu'une seconde est à 30 millions d'années. Et ce n'est pas juste pour envoyer des chiffres que je vous dis ça. C'est que des êtres humains, des scientifiques, ont réussi à fabriquer une machine qui capture des images toutes les femtosecondes. Mais ils ont genre fait une pellicule qui bouge très 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 vite là. Comment c'est non. J'ai pas lu.
Imagine la gueule de tes live photos iOS avec ça.
Mais oui, ça serait quand même. Et le truc c'est que c'est pas forcément une news hyper tech informatique que comme j'en fais généralement, mais moi, je voulais en parler parce que je trouve ça vraiment merveilleux, mais vraiment au sens qu'on est émerveillé, c'est une merveille, un truc incroyable, et qu'il y en a tellement dans la tech, dans le monde, dans la science. Et en fait, on est tellement habitué à côtoyer cet inimaginable qu'on ne se rend plus compte des miracles qui sont à notre disposition au quotidien, quoi. Et évidemment, on parle de ce truc à la femtoseconde, mais il y en a partout autour de vous. Et
ouais, mais tu peux même pas forcément te rendre compte. Une femtoseconde, tu peux...
Non, c'est
même
abstrait.
Si tu sais que c'est... J'ai regardé ce que c'est 10 puissance moins 15 secondes, mais même tu me le dis, ça va rien dire dans ma tête. Enfin, tu vois ce que...
C'est pour ça que j'aime bien cette image de la femtoseconde est à la seconde, ce que la seconde est à 31 millions d'années.
Oui, tu sais vrai que là, c'est plus parlant.
Et du coup, on côtoie cet inimaginable tout le temps, tous les jours, et c'est devenu complètement anodin pour nous. Et je pense qu'il serait bon de s'émerveiller un petit peu plus de ce que l'ingéniosité et la persévérance des êtres humains est capable de créer. Et donc, voilà, je vous invite à vous émerveiller devant la création de la caméra qui filme 150 trillions d'images par seconde à l'échelle de la...
Moi, je ferais ça parce que j'ai un quart d'heure cet après-midi.
Si tu peux heures, ouais, te poser un petit peu et
t'émerveiller. Je me pose une question. Du coup, les vidéos, vous savez, il y a plein de vidéos, tu sais, où les gens font éclater des pastèques au ralenti, ouais, des machins comme ça. Ça veut dire que ces vidéos vont durer 5 jours au lieu de durer 15 minutes.
Non, mais
c'est-à-dire
qu'une seconde, on l'a dit tout à l'heure, une seconde dure 30... Si tu passes ça, alors je ne sais pas, c'est à 24, peut-être que ça sera une seconde dure 1 million d'années, tu vois, un petit peu plus. Donc, ta pastèque, elle a le temps d'exploser, tu vois.
En plus, je ne suis même pas sûr que tu puisses prendre en photo une pastèque. En fait, je pense que c'est un truc qui ne doit même pas avoir de cellules photo. Ça doit être des lasers, des machins,
pas
possible.
Non, mais même dans quoi tu le stockes? Dans quoi tu le stockes? Parce qu'en plus, à cette échelle de la femtoseconde, j'imagine que tu dois capturer, tu ne peux pas capturer
10 minutes,
genre...
c'est 12 pétaoctets.
Voilà, c'est ça. Tu vas pas capturer même 2 secondes du truc. Tu captures, enfin, je ne sais pas, 2 secondes, ça va te faire 52 millions d'images. Je ne comprends pas. Tu vois, ça dépasse l'entendement, ce genre de truc.
Ouais, c'est ça, ouais.
Le stockage, ouais.
Je mettrai... mais c'est plus que le stockage. C'est le stockage et quel... Je suis sûr que tu peux aller voir le papier scientifique. Il y a l'article de Nature et l'article de Numérama que je vous mettrai dans la newsletter. Tu peux aller voir et regarder. Je suis sûr que ce n'est pas très compliqué. Ils vont dire, bon, c'est des... Enfin, pas très compliqué. Ils vont dire, c'est des lasers. OK, j'ai compris, c'est des lasers, très bien. Mais comment tu captures le truc? Comment tu stockes les images? Comment tu... Est-ce que tu as une cellule, tu as un CMOS, tu sais, de l'autre côté du laser? C'est quoi? À la femtoseconde près?
Déjà,
c'est du GIF animé.
Seconde.
C'est
du chiffre animé, c'est ça.
C'est combien de trillions, tu as dit?
Alors, encore une fois, c'est Numérama. 153 trillions d'images par seconde. 156,3 trillions d'images par seconde.
156 trillions d'images. La vitesse d'écriture du disque.
Mais c'est ça!
Ou alors
t'as 3 pixels, je sais pas.
Ou alors, c'est des photos de timbre-poste de 20 pixels par 20 pixels, quoi.
Possiblement, oui. Mais en plus, c'est pour étudier des trucs du genre les ondes de choc dans les cellules ou dans de la matière au niveau, j'imagine, de l'atome ou au moins de la molécule. Mais même ça, pour comprendre ce qui se passe, parce que clairement, c'est des images. Donc, il y a un élément visuel. Donc, ça ne peut pas être 20 pixels, tu vois. Il faut qu'il y ait un petit peu plus. Non, ouais. Quand on fait 153 trillions à la seconde, même si tu filmes juste un, tu vois, je sais pas, un centième, un millième ou un cent millième de seconde, bah ça te fait beaucoup d'images à inscrire en une seconde, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est le débit de l'interface, c'est-à-dire que c'est stocké où? C'est stocké dans l'appareil lui-même. C'est quoi le débit pour enregistrer en vitesse d'écriture? En plus, on parle pas de
pas de lecture.
Ouais, c'est pas de l'USB, hein, je vous le dis.
Je pense même pas que ça fasse un film, en fait, tu vois. Je pense que ça prend juste une
photo. Ça fait juste des photos. Ouais, mais t'imagines la vitesse d'écriture sur un disque. C'est monstrueux.
Bah, non, mais tu peux pas prendre juste une image. Enfin, si, peut-être, Marc. Mais j'imagine qu'il en faut quelques-unes. Mais parce que sinon, tu vois.
Tu filmes pendant une seconde, hein. T'en as 156
c'est ça. 156 trillions. Bon, t'es pas obligé de prendre. De prendre toutes les images à la femtoseconde près. Ça se trouve, tu peux en prendre toutes les 10 femtosecondes et c'est intéressant quand même. Donc, c'est seulement 15 trillions. Ça va.
C'est pas forcément écrit sur un disque, quoi. Tu vois ce que je veux dire,
Mais tu vois, Patrick,
mais c'est même dans de la mémoire, à cette vitesse, est-ce que... Enfin, je sais même pas quelle est.
Tu vois, Patrick, tu te moquais la dernière fois des gens qui avaient la fibre 10 gigas à la maison. Ben voilà, ça sert à regarder des films...
créés par
filmés,
voilà. C'est ça, exactement.
L'INRS
par
Canada,
le SCARF.
Voilà. Ça sert à ça. C'est ça. Ça sert
ça
à
s'appelle
ça.
Le SCARF.
C'est tout.
Il y a d'autres sujets un petit peu scientifiques que je voulais évoquer et en même temps un petit peu pratiques. D'une part, dans les aéroports, on va bientôt plus avoir besoin de sortir son ordinateur et je voulais en parler parce que c'est des nouveaux modèles de scanners qui sont en train d'être installés dans les terminaux parisiens. Et en fait, on en a en Finlande depuis 2 ou 3 ans. Ils les ont installés genre juste au début du Covid. C'était super timing. Mais c'est génial. J'avais oublié, parce que moi, je suis assez vieux pour me souvenir avant qu'on n'avait pas besoin d'enlever les ordinateurs du scanner. Et on revient à cette époque, t'as pas besoin, tu mets ton sac dans le bac et t'as pas besoin de sortir l'ordinateur, l'iPad, la ROG Ally, la montre, le machin.
Ouais, c'est bien.
Tu mets ton truc et ça passe. Bon, après, j'ai tellement de choses dans mon sac qu'ils veulent le vérifier quand même, mais il n'empêche, c'est plus rapide. On a aussi Drone Up. C'est intéressant ce qu'ils font chez Drone Up. C'est une start-up, évidemment, de trucs de livraison par drone qui travaille avec Walmart, Chick-fil-A, 7-Eleven aux États-Unis. Et un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se concentrent non pas sur le vol du drone, ce qui est relativement compris aujourd'hui, on sait faire voler des drones, mais ils se concentrent sur la dépose dans le drone et la réception du drone. Et en fait, ils ont des sortes de petites stations qui font la taille d'une voiture, qui sont sur un parking, sur laquelle le drone arrive et dans laquelle on peut mettre, il y a un petit bac, enfin une petite ouverture dans laquelle on peut poser le paquet et le drone vient la récupérer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Drone Up, il se concentre vraiment sur ça, sur l'interface, en fait, entre drone et humain, avec une sorte de petite machine, une grosse... comment on peut décrire ça ? C'est pas une grosse machine, un distributeur, quoi, sauf que le drone se pose en haut et puis la livraison arrive par une ouverture sur le côté. Et ça fait la taille d'une camionnette, on va dire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis, il y a un dernier sujet aussi dans les questions de vitesse. C'est le record de vitesse de transmission de données qui a été battu. C'est là encore des chercheurs, hein, évidemment, qui ont atteint un taux de 301 terabits par seconde, c'est-à-dire l'équivalent de 1800 films 4K. Alors, c'est à la louche, hein, en une seconde. C'est sur des fibres optiques, évidemment. Pardon ?
Bientôt chez Free.
C'est ça, la prochaine Freebox. Bon, je vous passe les détails techniques. Ils utilisent une bande, une fréquence, qui est généralement pas utilisée parce qu'elle est moins stable. Ils appellent ça la I-band, la fréquence E. Généralement, on en utilise d'autres. Mais 300 terabits par seconde, ça fait beaucoup. Et évidemment, c'est pas comme ça que ça va être implémenté commercialement et pas pour tout de suite et tout ça. Mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une personne qui est en charge justement de l'installation des fibres et surtout des switches. Et il me disait l'atout plutôt de la fibre optique, c'est que tu peux toujours subdiviser les spectres, le spectre visuel. Tu peux toujours, avec les avancées scientifiques et les algorithmes et tout ça, tu peux toujours en diviser plus, quoi. Il y en a presque une infinité. Et plus on avance dans la technologie, plus tu peux caser de données dans les fibres optiques à un niveau qui est, de manière réaliste, quasiment infini aujourd'hui pour nos besoins du jour. Et 300 terabits par seconde, effectivement, sur une fibre. Hein. C'est sur les fibres existantes qu'on utilise tous les jours.
Je connais des gars qui font des films avec 156 trillions d'images pour une seconde. Ça peut peut-être les intéresser. Il y a peut-être un truc à faire. On va les connecter sur LinkedIn.
C'est ça. Oui, j'avais vu que tu avais fait un article sur le sujet, Corben. Donc, je me suis dit que ça t'intéresserait. Tu as besoin de ça pour ton blog qui consomme un petit peu. Donc.
C'est vrai.
Ouais, on va leur faire une connexion sur LinkedIn, ça va bien se passer. Dernier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, alors c'est un sujet un petit peu plus sérieux peut-être, je l'ai intitulé « Un petit peu de justesse », après un petit peu de fun et un petit peu de science. Un petit peu de justesse parce que on sait tous que les réseaux sociaux sont en train de causer une crise de santé mentale, en particulier chez les jeunes. On le sait tous, on en entend parler depuis des années, l'utilisation abusive de réseaux sociaux, le fait de se comparer à d'autres, le harcèlement, etc., ça provoque une crise de santé mentale chez les jeunes plus spécifiquement. Et on le sait tous, sauf que, en fait, c'est pas vrai.
Ouais, alors, j'ai vu ça ce matin.
C'est en tout cas, il y a eu de nombreuses études scientifiques, et j'entends parler de certaines d'entre elles depuis un moment, mais là, on commence à avoir un corpus suffisant pour arriver à des conclusions. De nombreuses études scientifiques, de nombreuses méta-études qui nous confirment qu'il est impossible, ou en tout cas, aucune de ces études n'ont réussi à établir de lien causal entre l'utilisation des réseaux sociaux et un accroissement des problèmes de santé mentale chez les jeunes. On parle de stress, d'angoisse et ce genre de choses. Et ça peut aller beaucoup plus loin aussi, évidemment. Et c'est particulièrement intéressant de le noter parce que, comme je le disais, on est vraiment dans un état où c'est une évidence que la cause de l'augmentation de ces problèmes, c'est les réseaux sociaux. Alors, cet article de Nature, encore eux, a été écrit par Candice L. Hodgers, qui est une scientifique qui étudie ces sujets, une psychologue, et elle parle spécifiquement d'un livre qui sort aux États-Unis ces jours-ci, qui s'appelle « The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness » de Jonathan Haidt, qui sort aujourd'hui. Ce que c'est, en français, ça donne la génération anxieuse ou stressée, et il évoque le sujet, l'idée d'un recablage du cerveau. et que les réseaux sociaux recablent le cerveau malléable des adolescents et créent ces problèmes. Parce qu'il y a des troubles de l'attention, il y a une gratification immédiate et permanente, et toutes ces choses-là. Et donc, ce sur quoi elle insiste, Madame Hodges, c'est qu'aucune étude n'a prouvé ça. Alors, elle essaye d'être prudente, parce que c'est visiblement une scientifique sérieuse. Elle dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien, peut-être qu'on a besoin de plus d'études, peut-être qu'on a besoin de plus de données, mais en l'état aujourd'hui, des dizaines d'études n'ont pas réussi à établir ce lien. Et ce que fait M. Haid, c'est une corrélation, c'est un procédé logique trompeur qu'on étudie tous à l'université, je pense, la différence entre corrélation et causalité. Quand deux phénomènes sont corrélés, semblent se suivre, ça ne veut pas dire que l'un a causé l'autre. Et en l'occurrence, il y a effectivement une corrélation entre l'augmentation d'utilisation des réseaux sociaux et, c'est vrai, une augmentation des problèmes de santé mentale dans la jeunesse. C'est vrai, elle est constatée. Mais l'argument de Hodges, c'est de dire si on se focalise sur les réseaux sociaux, on va perdre du temps et on ne va pas trouver les bonnes causes et combattre les bonnes causes. Là encore, elle insiste sur le fait que les deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut avoir la réalité que ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui causent cette épidémie de problèmes de santé mentale, et en même temps, la réalité qu'il faut tout de même essayer de contrôler et d'adapter le design des réseaux sociaux et le fonctionnement des réseaux sociaux à la jeunesse. On a par exemple, dans d'autres articles, des données de l'OMS qui établissent que le cyberharcèlement est en augmentation ces dernières années. Il y a eu une grosse croissance pendant le Covid. En augmentation, on est à des chiffres de 7, 10 en fonction des garçons et des filles, pourcent de la population qui a été victime de cyberharcèlement, enfin de harcèlement normal ou de cyberharcèlement, ça va un petit peu plus haut pour le cyberharcèlement. On a des jeunes qui expliquent qu'il y a une fonctionnalité, par exemple, de WhatsApp qui établit la proximité dans les groupes d'amis, la proximité de certains amis sur une sorte de planétarium. On a un diagramme qui montre, ah bah, telle personne, vous êtes Mercure, vous êtes Neptune, vous êtes vos amis, c'est tel et tel truc. Et donc, c'est une proximité. Il y a des jeunes qui disent, bah merde, moi, je pensais qu'on était super potes, mais en fait, Snapchat me montre qu'on est... en fait, c'est telle autre personne qui est Mars pour la Terre, donc plus proche. Et donc, ça peut causer de l'anxiété de surveiller ce genre de truc. Donc, c'est pas que ça n'existe pas, mais la causalité n'est pas du tout avérée. Et c'est hyper important à noter et à comprendre. Donc, je vous invite à peut-être vous poser des questions ou vous mettre un petit peu de distance entre cette certitude de l'impact des réseaux sociaux et sur la santé mentale à repenser cette certitude parce que scientifiquement, elle n'est pas avérée.
Donc, alors, ce que j'ai lu aussi dans l'article, mais je peux me tromper, peut-être que j'ai lu en diagonale, c'était que les jeunes qui avaient déjà une sensibilité là-dessus, qui ont déjà des problèmes en fait, de santé mentale, ça accentue en fait ça.
Alors, il y a effectivement peut-être un peu de ça, et il y a aussi le fait que quand on a déjà des problèmes de santé mentale ou une certaine fragilité, on peut être plus prompt à consommer plus de réseaux sociaux. Ce qui veut dire que c'est une inversion de la causalité. En fait, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est classique hein, dans ce genre d'études statistiques, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont causer les problèmes de santé mentale, mais peut-être plus les gens qui ont déjà des problèmes de santé mentale qui vont être plus consommateurs de réseaux sociaux. Et c'est voilà. Pour ça qu'on associe les deux. Tu vois, donc ça peut arriver effectivement dans ce sens-là.
Ok.
Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire là-dessus, Cédric.
Si, il y a un truc. Pendant ce temps-là, le pays qui fait des caméras femtosecondes, il y a des écoles là-bas qui ont essayé de porter plainte contre... Ouais, le Canada, ouais. Il y a des écoles, en fait, au Canada qui ont essayé de porter plainte contre TikTok, Snapchat, entre autres, qui le considèrent comme... Il réclame carrément des dommages et intérêts en disant que ça perturbe les apprentissages, que c'est pas bien, que ça provoque aussi des problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'ils disent, en gros, je cite l'article du Parisien rapidement, parce que c'est le Parisien qui se fait rapporteur de ça. Il dit qu'en gros, les répercussions de l'utilisation compulsive des réseaux sociaux parmi les élèves exercent des pressions considérables sur des ressources limitées, estiment les écoles, qui provoquent la nécessité de dégager des moyens supplémentaires pour des programmes du personnel spécialisé dans la santé mentale. Vous voyez que pour eux, en fait, voilà. Mais comme tu dis, en fait, est-ce que c'est le thermomètre qu'on est en train de cibler ou est-ce que c'est la cause, enfin la maladie? Et je pense qu'effectivement, on est plus sur le thermomètre. Et en fait, lutter contre le thermomètre, c'est pas une bonne idée, en fait. Les gens finissent par s'épancher sur les réseaux sociaux, par essayer de trouver du réconfort là-bas, en fait. S'inventer peut-être une vie ou avoir l'impression que leurs problèmes du quotidien sont complètement effacés dans cette bulle qu'ils se construisent autour de tout ça. En fait, ils se servent de ça comme une solution finalement et c'est pas forcément une cause. Et je t'avoue que je suis ça de très près parce que j'ai beaucoup d'étudiants, etc., qui sont concernés aussi par des soucis de santé mentale, etc., d'addiction et tout ce qu'on veut. Je suis ça d'hyper près et je suis plutôt d'accord justement avec cette étude. Pour moi, en fait, tous ceux qui sont en surconsommation de ce type de réseau, j'ai des étudiants brillants qui consomment énormément de réseaux sociaux pour diverses raisons et ils n'ont pas de problème de santé mentale. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile sur un échantillon de 200 ou 300 étudiants de tomber sur une exception. En fait, non, je constate que c'est plutôt une norme et qu'en fait, tout le monde est consommateur et que même ceux qui sont en difficulté ou qui rencontrent des difficultés sont aussi consommateurs. Et ce n'est pas pour autant qu'en fait, il y a cette relation je consomme des réseaux sociaux, donc je suis en échec scolaire, donc j'ai des problèmes de santé mentale, etc. C'est pas ça, en fait. Ça fait partie peut-être du package de solutions qu'eux essaient de se trouver. Mais pour moi, c'est pas... comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec cette étude. Pour moi, en fait, ça provoque pas ça. Ça peut l'exacerber, comme disait Corben, et ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en essayant de trouver une solution, finalement, on renforce le problème. Mais j'ai envie de dire, c'est de l'automédication par les réseaux sociaux, donc ça peut renforcer le problème. Puis ces histoires de bulles médiatiques dans lesquelles on s'enferme et tout ce qu'on veut, etc., qui vont confirmer certaines choses, en fait, tout se rejoint. Et je ne crois pas que ce soit la cause du mal. Voilà, je pense que ce n'est pas le remède, mais ce n'est pas la cause du mal. C'est un vrai thermomètre, c'est-à-dire que ce truc-là nous permet d'avoir d'avoir une visu sur ce qui est en train de se passer. Et sans ce thermomètre même, je pense qu'on ne le verrait pas. L'impact, par exemple, qu'a eu le Covid sur les gens, sur même leurs croyances, la remise en question de la science et tout ça, c'est pas les réseaux sociaux qui ont provoqué la remise en question de la science. Simplement, on le voit, en fait, parce que les gens s'expriment dessus. Mais c'est juste ça, en fait.
Il y a, sur la question du thermomètre, effectivement, Candice Hodgers, donc dans son article, encore une fois, il sera dans la newsletter, évoque, par exemple, la crise de 2008. Et elle dit, la génération qui, aujourd'hui, atteint l'âge de l'adolescence et qui dont on parle quand on parle de ses soucis est une génération qui a grandi avec à la suite de cette crise et peut-être qu'il y a là des choses à aller chercher. Alors il parle des États-Unis spécifiquement, mais il y a peut-être là aussi des choses à aller chercher et d'autres causes. Et c'est l'essentiel de son argument. Faut pas s'attaquer au thermomètre. Faut trouver les bonnes causes et s'attaquer au thermomètre, ça fait perdre du temps et pendant ce temps, les problèmes restent.
C'est exactement ça, alors qu'on sait tous que le problème, c'est les jeux vidéo. LOL,
mais
allez,
voilà,
hop, c'est fait.
Pourquoi perdre du temps, bon sang de bois? Je me le demande. Donc, voilà pour ces sujets principaux. J'espère que ça vous aura intéressé. Je voudrais vous encourager pour prendre soin de ma santé mentale à moi, il y a une chose simple à faire. Allez sur patreon.com/rdvtech. L'argent ne fait pas le bonheur, mais peut-être qu'il y contribue. En tout cas, il contribue à l'achat de pâtes, plus de couches, peut-être de truffes, qui sait. Si vous appréciez l'émission et que vous voulez que Patrick mange dans le luxe, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech ou simplement, si vous voulez que Patrick soit compensé pour son travail, j'espère de qualité, ou que vous appréciez, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir cette émission. Je ne dis pas plus sur ce sujet, puisque vous connaissez la musique et que vous savez que quand vous arrivez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et donc vous allez sur patreon.com/rdvtech.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et on enchaîne avec le reste de l'actu. J'ai déjà oublié ce que c'est le reste de l'actu. Vous savez quoi ? On va parler un tout petit peu de WhatsApp. Je mettrai un lien là aussi dans la newsletter, sur le lien vers un article qui parle de WhatsApp et de son évolution. Puisqu'on évoquait en début d'émission WhatsApp, c'est assez incroyable la manière dont WhatsApp a... enfin, on sait que WhatsApp est omniprésent, mais en même temps, ils ont réussi chez Meta à lui faire prendre une place encore plus importante sans vraiment qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que WhatsApp, aujourd'hui, dans plein de pays, servait à énormément de choses, au commerce, au paiement, à l'information, à la communication. Et ils ont petit à petit ajouté des fonctionnalités sans ruiner les fonctionnalités qui existent en dessous, qui font que, je dis au paiement, je ne suis pas sûr que WhatsApp serve au paiement par contre, mais les relations avec le business, très certainement, parce qu'il y a des gens dans des pays qui ont moins d'infrastructures de communication qui se servent de WhatsApp plutôt que pour faire du commerce, plutôt que des sites avec de l'e-commerce, etc. Vous discutez par WhatsApp et puis vous envoyez les trucs. Et il y a notamment, depuis quelques mois, ces broadcast channels, donc ces chaînes de communication, qui sont différentes de la communication 1 vers 1 ou 1 vers un groupe ou groupe vers le groupe, parce qu'il y a déjà des communautés qui sont genre pour des groupes comme les groupes Facebook, genre ton groupe de voisins, ton groupe d'école, etc., qui peuvent être formés sur WhatsApp. Mais il y a aussi maintenant les broadcast channels qui sont en fait de 1 à plusieurs, mais sans interaction autre que les emojis en réaction. Donc il n'y a pas d'interaction. Et surtout, il n'y a pas d'algorithme. C'est-à-dire que un channel WhatsApp, vous allez vous y abonner, un broadcast channel, alors il y a peut-être une recommandation, mais vous allez vous y abonner et puis vous allez le consulter. C'est une série de messages chronologiques qui n'est pas mélangé avec les autres messages. Bon, ça viendra peut-être genre le best-of de tous vos channels quand vous en aurez 150 peut-être. Mais à ce stade, vous allez sur le channel, vous regardez la liste des messages chronologiques et vous pouvez les lire et passer à autre chose. Et c'est presque, je suis sûr que Corben est particulièrement intéressé par ce genre de choses, parce qu'on est presque en train de réinventer le blog, là. C'est le blog à la sauce des apps modernes, où ben, on va, au lieu d'aller consulter des blogs disparates sur le web et il faut se souvenir d'aller les regarder les uns après les autres, ben, on ouvre son app WhatsApp qu'on ouvre de toute façon pour parler avec les gens. Vous vous en souvenez, hein, aux États-Unis, ils étaient beaucoup plus sur iOS, mais ailleurs dans le monde, il n'y avait pas de SMS. Et donc, enfin, pardon, il fallait payer pour envoyer des messages SMS ailleurs dans le monde. Et donc, beaucoup préféraient utiliser WhatsApp qui passait par la data et donc on ne payait pas au SMS. Et donc, WhatsApp a gagné en popularité comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui encore, utilisent WhatsApp. Et bien, vous avez aussi vos broadcast channels. Donc, Le Monde, Le Figaro, Hugo Décrypte, Les Numériques. Enfin, ils ont tous des chaînes sur WhatsApp.
Corben, depuis 30 secondes.
Ben voilà, Corben, tu peux nous mettre le lien pour qu'on aille s'abonner.
Il n'y a rien dessus, hein, mais...
Non, bien sûr. Bah, moi, j'ai Note Patrick. Alors, il faut... le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de les trouver. Il n'y a pas d'outil de recherche. Il faut avoir le lien. Moi, je vous mettrai le lien dans les notes. Je suis vraiment en train de tester là, de voir ce que ça donne. Mais ça me plaît pas mal parce que, encore une fois, vous allez regarder les news. Vous avez votre truc peut-être une fois, deux fois, dans la semaine, trois fois. Alors, il y en a qui font tous les jours. Il y en a qui abusent un peu, qui font trop de notifs. Ça fait un peu Twitter. Moi, je ne ferai pas ça. Et puis, vous repartez. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de... Non, rien de tout ça. Alors, évidemment, ça peut être sujet à de la désinformation, à des groupes un peu privés, machin. Bon, alors là, ce n'est pas privé, c'est public. Mais quand même, je trouve ce format assez intéressant. Et puis, ça assoit l'importance de WhatsApp qui sert, comme je disais, business, communication, politique, désinformation, plein, plein de trucs. Et tout est dans WhatsApp.
Intéressant. Est-ce que c'est utilisable par une API ou ce genre de choses ou c'est que
c'est alors il y a des API WhatsApp. Je ne sais pas quelles sont les conditions d'utilisation et si ça touche au broadcast channel. Je ne saurais pas te dire si spécifiquement il y a des API pour que tu puisses automatiser ton truc d'envoi de. Je te vois venir pour automatiser chaque article de
blog. Ah, je regarde ce que font les autres médias et ils balancent leurs news dedans. Voilà.
Je ne sais pas s'ils le font à la main. Il y a une version web de WhatsApp. Tu peux aller sur web.whatsapp.com, connecter ton appareil et tu as une interface qui est bien meilleure que celle de l'application à télécharger de WhatsApp qui existe aussi mais qui n'est pas super bonne. L'interface du web est pas mal et tu as accès au broadcast channel là-dessus. Et donc, tu as... Ouais. Alors, il y a peut-être une image, mais c'est essentiellement du texte. C'est... Je ne sais pas pourquoi. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que tu vois... Le même contenu sur un site web qui est bardé de pubs, tu n'arrives pas à trouver ton contenu. Alors, c'est peut-être une pomme empoisonnée parce que du coup, tu n'as plus de moyens de monétiser avec WhatsApp parce qu'il n'y a pas de pub. Et puis, tu livres ton audience à un service tiers. Mais c'est assez agréable à lire, quoi. Bon. Ben, vous n'avez pas l'air totalement...
Non, c'est très bien. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, souvent, sur la création de communauté, ça fait plus newsgroup, je trouve.
Ouais, un petit peu, ouais. Une personne, c'est un broadcast channel, c'est d'une entité vers tout le monde.
C'est
ça. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut poster, là.
Non, c'est du redescendant. En fait, je trouve que c'est un bon complément. Pour ceux qui n'ont pas envie de rédiger des newsletters, typiquement, ça peut être un bon moyen de toucher les gens rapidement. Tout le monde a un compte WhatsApp, presque tout le monde a un compte WhatsApp. Et donc du coup en fait c'est le lieu où de toute façon t'as déjà tes messages, t'as déjà tes trucs et tout, et concentrer tout ça dans le même lieu, c'est pas idiot. Avant, en fait, cette fonctionnalité elle a débarqué surtout parce que dans beaucoup de pays on utilisait les groupes WhatsApp, qui revient à peu près à la même chose, à une nuance près, c'est que tout le monde parle. Ça a beaucoup été utilisé par exemple au Brésil pendant les élections présidentielles et tout ça, pour diffuser entre autres de la fake news, mais pas que. Mais on utilisait beaucoup les groupes et ainsi de suite. Là, se dire il y a une source identifiée, c'est pas tout le monde qui parle, je peux faire confiance ou pas d'ailleurs à la source, mais à minima, si jamais elle est discréditée, c'est l'ensemble du groupe qui est discrédité, alors que là, c'est un membre du groupe, on sait pas trop, c'était nébuleux. Je pense que ça répond à cette problématique-là, et moi, je trouve ça hyper intéressant. Je suis abonné à plusieurs... j'y suis dans plusieurs groupes comme ça. Je trouve que ça apporte un vrai truc de... typiquement, pour faire de la veille, pour avoir des informations sur un influenceur ou une communauté ou une équipe e-sport qu'on suit, ce genre de choses, en fait, je trouve ça cool. Mmh. Ça évite la lourdeur de se connecter à un site web ou d'aller chercher dans sa boîte mail. Et c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'en fait, il y a très peu d'aspérité, comme un SMS, en fait. C'est vraiment ça l'idée. C'est que ça marche comme un SMS, il y a très peu de contraintes à aller consulter ce contenu, il est accessible tout de suite, il vous épouche facilement. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est malin qu'ils aient fait ça parce que c'est vraiment le truc. Alors, sur Instagram, on le retrouve aussi maintenant. On le retrouve sur Insta et ça marche sur le même principe. C'est que vous rejoignez un groupe dans lequel, en gros, il y a juste le créateur qui vous envoie des infos et vous les recevez.
C'est exactement le même principe. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas accès sur Insta.
En fait, c'est Twitter, ah ouais, mais sans les réponses des rageux.
Sans les réponses, oui, c'est ça. C'est, ça.
C'est Twitter, ça. Mais tu peux mettre des trucs plus longs, sans les réponses, ouais, voilà. Sans la toxicité, non, mais c'est ce que je disais au début.
C'est intéressant, c'est joyeux, tu peux poster des vidéos en direct, tu peux mettre des
sondages. Ah ouais, c'est top. C'est top. Et typiquement, moi, je suis une boîte qui fabrique des claviers au Canada, décidément, les Canadiens,
aujourd'hui, ils sont à l'honneur.
Voilà, qui s'appelle Worklouder et j'adore ce qu'ils font. Et justement, ils ont créé un truc comme ça et on voit la fabrication au fur et à mesure. Donc, c'est le behind the scenes pour eux. Ils utilisent ce truc sur... Alors, pas, je ne l'ai pas sur WhatsApp, moi, je l'ai sur Insta pour eux. Et c'est vraiment le behind the scenes. Et on voit vraiment... voilà, ils postent des vidéos, ils font des mini-lives là et vraiment que pour leur commu.
Anne Hidalgo fait pareil. Hein. Cool.
Anne Hidalgo fait pareil, ok. Bon, bah, merci. Bah, elle a quitté Twitter en même temps, enfin X, donc bon.
Oui.
Fallait bien se rabattre quelque part.
Bon, donc voilà, visiblement, on ne peut pas encore trouver la chaîne Note Patrick en faisant une recherche sur les recherches de chaîne. Je me suis trompé, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire une recherche, c'est pas vrai, on peut faire une recherche, mais il n'y a pas encore Note Patrick, peut-être qu'elle arrivera.
T'as publié du contenu
où je viens peut-être aujourd'hui, que c'est pas, dans pas contenu, c'est pas encore.
Ah ça, oui, bah, c'est peut-être ça en fait.
Les contenus, j'ai publié quelques tests là, notamment mon petit laïus sur la WWDC, le truc sur la caméra à la femtoseconde, tout ça, et je vais voir si je peux publier ce genre de truc. Et ça me donne envie d'écrire des trucs un peu plus longs que juste pour la newsletter, tu vois. Ou peut-être que j'ai
intégré à
la newsletter aussi. Bon, bref, on verra. Donc ça, c'était WhatsApp. Un petit peu d'IA, tiens. Il y a une interview intéressante encore chez Numérama. Décidément, aujourd'hui, c'est Canada et Numérama. Une interview intéressante de la personne qui a fait les images du clip de Big Flo et Oli. Ça va beaucoup trop vite. C'est un type qui s'appelle Neb. Et bon... Je vous passe les détails de l'interview. Un truc qui est hyper intéressant qu'il a dit, c'est qu'au début du clip, il y a un petit encart qui dit « Aucun humain n'a participé à la création de ces images ». Et effectivement, aucun humain n'a peint ces images. Mais lui, il dit « Alors, aucun humain n'a participé, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à créer ces images. » Donc, c'est un retournement intéressant de cette idée parce que instinctivement, on se dit « Ah bah oui, aucun humain, machin !» Et lui, il dit « Mais j'ai passé des dizaines d'heures à faire ce truc. » Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a aucun humain qui a participé. Il y a aussi une initiative que je voulais évoquer de Microsoft qui veut mettre des PC IA partout. Alors, la prochaine génération de PC sera les PC IA. Qu'est-ce que ça veut dire un PC IA ? Il y a des taux minimum de... Enfin, il y a un type de mémoire, des NPU, des moteurs neuronaux dans les processeurs.
Il faut des corps ultra.
Il faut des corps ultra, etc.
Ouais,
etc.
Voilà.
Donc, il y a les PC spécialisés en IA qui vont arriver. OpenAI a commencé... Et Copilot, et la qui,
touche, la touche Copilot, ouais.
La touche
Copilot. Ça remplace
Copilot.
La touche Windows de droite.
Exactement. Il y a toujours celle de gauche, mais il y a la touche Windows de droite. OpenAI est en train de mettre au jour son générateur de voix qui peut recréer une voix avec 15 secondes de modèle. Donc, on en a déjà parlé, hein, vous connaissez, je vous avais donné des exemples. Ben, OpenAI arrive là-dessus aussi, ils ne sont pas encore disponibles spécifiquement maintenant publiquement. OpenAI, d'après certaines sources, est en train de travailler, enfin, évidemment, est en train de travailler à ChatGPT-5, mais un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont considéré l'idée d'utiliser les vidéos, les scripts des vidéos YouTube publiques. Et une réflexion intéressante sur l'IA, c'est que d'ici 2 ans, on ne va plus avoir assez de contenu texte de qualité acceptable, de bonne qualité, pour alimenter les IA. C'est-à-dire qu'on aura utilisé tout le texte du monde. Et ça, je suis un peu, mais... Enfin, il y a beaucoup de texte dans le monde quand même. Alors, de bonne qualité, hein, c'est un truc spécifique, mais... Il y a beaucoup de textes
dans
le monde.
Pas les tweets d'Elon Musk, quoi.
Bon, ben voilà, on sélectionne. mais du coup, est-ce que peut-être qu'à terme, il va y avoir des IA qui vont écrire plus de textes pour entraîner les IA ? Je plaisante même pas, il y a des trucs qui fonctionnent déjà un petit peu comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut... En fait, la question qui m'intéresse, et c'est un truc scientifique, est-ce que le fait d'avoir, je sais pas, 10 milliards, je dis un chiffre au hasard, 10 milliards de lignes de texte, ça produit des IA qui sont super ? Mais d'en avoir 12 milliards, ça fait des IA qui sont super plus. Genre, quand tu passes de 10 à 12, est-ce que ça améliore encore ? Est-ce qu'il y a encore un truc qui peut être amélioré ? Bon, je suis sûr qu'ils savent de quoi ils parlent, mais ça me surprend, quoi. Et puis, un dernier chiffre, je vous donne la parole après. Selon un sondage aux États-Unis, 43% des adultes de 18 à 29 ans ont déjà utilisé ChatGPT en février 2024. En juillet 2023, c'était 33%. Donc, on est passé de 33% à 43%, rien que sur ChatGPT. L'IA, ce n'est pas les NFT. Hein. C'est vraiment pour de vrai, l'IA, là. On est d'accord.
Il y en a qui pensent que c'est une bulle, hein. Enfin, que ça va s'arrêter très, très vite. J'ai encore eu des gens qui m'ont dit ça il n'y a pas très longtemps.
Ben oui, c'est le problème de ne pas savoir de quoi on parle. Et on a eu l'expérience, effectivement, justement, pour la 3D vidéo. Les télé 3D, c'est vrai, Et les NFT, on a toujours dit que c'est peut-être intéressant techniquement, mais dans la pratique, bof. Et donc, tu te dis, il y a eu la 3D, il y a eu le truc, donc pareil, l'IA, c'est pareil. Ben non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, c'est pas pareil.
On ne peut pas gagner à tous les coups. Ça me fait penser à un truc justement sur l'IA, ce que tu es en train de dire, parce que ce matin, j'écoutais cette radio qui est France Info, service public, tout ça, sur, d'ailleurs, on doit pouvoir retrouver la chronique sur le site de France Info, qui expliquait que, en gros, les entreprises qui se sont empressées d'implémenter l'IA déchante aujourd'hui. et en fait, c'était le chatbot de DPD, le transporteur, qui se met à insulter DPD quand on lui pose 2-3 questions. Le chatbot canadien, parce que c'est branché sur de l'OpenAI ou consort, et les trucs n'avaient pas sans doute été tout testés et compagnie. Le prompt system doit être limité. Enfin bon, il y a des trucs qui ne vont pas. Le chatbot canadien d'une compagnie américaine, décidément encore le Canada, qui donne des coupons de remise qui ne sont pas valables. Et du coup, les gens portent plainte contre Air Canada en leur demandant « Mais je ne comprends pas les coupons de votre chat machin, nanana, et ils sont condamnés à devoir le faire. »
Parce qu'ils créent des coupons de n'importe où, quoi. C'est genre « Ah tiens, voilà un coupon. »
Voilà. Et les autres exemples donnés, c'était par exemple un logiciel de RH entraîné sur tous les bulletins de paye, tous les documents légaux, machin, à qui on demande est-ce que je pourrais avoir les bulletins de paye de la direction et qui vous donne les bulletins de paye de la direction, ce qui peut provoquer des petites tensions avec les employés, bref, qui découvrent les salaires mirobolants de leur patron. Mais en fait, c'est ça les exemples. Et la conclusion, c'était finalement, il vaut mieux pas y aller. Hein. what?
Ouais.
Ok. Bon, merci. Mais il y a des gens qui... C'est un peu le vieux monde aussi qui essaie de résister. Et tu sens... Pourtant, France Info, c'est les premiers à adopter certaines technologies. Mais j'ai l'impression que là, comme ça touche un peu, j'allais dire, à leur gagne-pain, les IA génératives, finalement, ce journaliste qui a fait ce petit papier, il aurait pu être remplacé, d'ailleurs même par peut-être une voix de synthèse, qui aurait peut-être dit moins de bêtises, je ne sais pas. la menace arrivant... Tu sens que
je pense qu'il y a de ça, le fait que ça fait cliquer de dire l'IA c'était vraiment n'importe quoi, maintenant c'est fini machin. Et puis il y a le fait aussi
France Info, normalement c'est pas des habitués.
Ouais,
France Info, c'est vraiment pas des habitués normalement au putaclic. Mais là j'étais hyper étonné.
Et puis il y a le fait aussi que ce genre d'impact n'arrive que une fois par décennie, voire par plus que décennie. Je veux dire, le précédent c'était sans doute l'iPhone en 2007-2008, quoi. Et ça fait un moment. Et il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas tous les deux ans. Il n'y en a pas tous les trois ans. Et donc, c'est difficile d'y croire parce que ça arrive. Et il faut être honnête. Nous, on est à fond dedans, donc on comprend bien, enfin à fond dans la technologie, donc on comprend bien ces sujets. Et vous aussi, chers auditeurs, puisque vous écoutez le Rendez-vous Tech. Mais quand tu es dans un domaine qui n'est pas... Moi, je voyais, par exemple, une émission, c'était RTL, je ne sais plus, où ils avaient synthétisé la voix de je ne sais plus quel sénateur qui parlait d'Aya Nakamura. Vous l'avez sans doute vu, cet extrait.
Oui, comme d'hab.
Et en fait, ils lui avaient fait chanter du Aya Nakamura. Et tu avais les chroniqueurs autour, parce que c'était filmé, bien sûr, les chroniqueurs, mais ils avaient le visage, ils étaient blêmes, quoi. Ils disaient, mais comment est-ce possible ? C'est invraisemblable. Alors que c'est des trucs que nous... Alors, ça fait ridicule, mais à l'échelle d'Internet, c'est des trucs que nous, on connaît depuis des mois, six mois, un petit peu plus. Le fait de composer une voix avec des extraits courts, et eux, ils découvrent. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est dedans, et on comprend, et on sait l'efficacité que ça peut avoir. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur quotidien, en fait, n'en voient pas encore l'impact, parce que ça met un an, deux ans, trois ans, quatre ans à arriver dans le quotidien des gens. Tu Tu vois, là, on en est encore aux outils spécialisés de logiciels de création artistique ou de machin. Tu vois, c'est, on est dans les tout débuts. Et donc, je comprends qu'ils n'y croient pas parce qu'ils ne le voient pas encore. Ça va mettre un petit moment. C'est comme quand l'iPhone est arrivé en 2007. Bah, nous, on a vu le futur et on a eu tu vois, la lumière de Dieu qui s'abat sur ta tête. Et en fait, les iPhones, ça a vraiment commencé à révolutionner le monde en quoi 2010, 2011, 2012. Je dis l'iPhone et les smartphones de ce type-là en général. Donc, je comprends qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas de moyens de savoir.
Ah oui, mais clairement. Et c'est, pour eux, c'est... Moi, je l'ai vu hein, quand j'ai fait découvrir 8Gen, par exemple, où j'avais entraîné sur une de mes matinales et j'avais du coup après enregistré plein de messages avec ma voix, mon image, assis dans le canapé, des trucs que j'avais jamais dit. Ils m'ont dit, mais c'est fou, en fait, ce truc. Et j'aurais dit, mais Soulé, fait la démo. Maintenant, tout de suite, donnez-moi un texte, je le dis, et je tape le texte, ouais. J'envoie le truc, et ils l'ont vu devant eux, le truc se réaliser, et ils ont fait,
ouais, bien sûr.
Alors qu'en fait, bon,
c'est un outil. Mais il faut être honnête, nous, on est blasés parce qu'on connaît ça depuis 3 jours, mais il y a 3 jours, à peu près, quand on l'a vu la première fois, on avait autant la mâchoire qui s'est décrochée, tu vois.
Ah bah oui,
on
oui,
a vu le premier ChatGPT et Midjourney et les trucs comme ça, c'était...
Oui, mais avec une petite nuance, c'est que comme on baigne dedans tous les jours, on savait inévitablement que ça arriverait. Le seul truc, c'est que là, on le voit se réaliser, du coup, on fait...
Alors oui et non. Hein.
Alors moi, que dans les autres...
Moi, je trouve que Midjourney et ChatGPT, ça a été une étape quand même, moi, qui m'a décroché la mâchoire. Toi, t'étais peut-être... dans le secret des dieux et blasé parce que tu fais partie d'une école d'élite.
Attention, je n'étais pas du tout blasé, au contraire même. J'ai dit, ça y est, on y arrive enfin. Tu vois, moi, c'était plutôt ça, en fait, ma réaction. Par contre, les gens qui sont complètement extérieurs au truc, quand ils le voient la première fois, effectivement, il y a cet effet... Et là, en fait, tu vois qu'à l'intérieur, leur monde s'écroule.
en
se disant, non, mais on peut faire ça. Et là, tu te dis, oui, et tiens, regarde, il existe tel service qu'il fait déjà, et truc. Et là, alors là, c'est incroyable.
Ah ouais, mais même moi, là, je développe des trucs pour moi. Ça va que je suis mon propre patron, parce que si j'étais un salarié de moi-même, je serais déjà au chômage. C'est un truc de ouf, parce que je peux vous le dire, mais je m'en fous. Hein. Je peux être remplacé par l'IA totalement. Hein. J'ai pas de... Voilà, ce que je fais là aujourd'hui, ça peut être fait par une IA, y a aucun souci.
Ah, bien sûr.
Donc, non, mais c'est... Voilà. C'est pour ça que...
D'ailleurs, peut-être que Corben n'est pas parmi nous hein, aujourd'hui. Peut-être c'est que c'est une IA.
Encore un peu, tu vois, au niveau vidéo, je pense, c'est réactivité. Tu réagis un peu vite pour être un bot Corben. Mais c'est pour ça aussi, là, si on parle un petit peu de notre sauce, de créateur de contenu, c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir une personnalité spécifique que les gens, à laquelle les gens vont accrocher. Quand Corben... il se plaint des politiques et des chasseurs. Tu te dis, tu vas avoir des atomes crochus ou pas, et tu vas bien aimer la personne. Moi, quand je fais l'avocat du diable, quand je vous fais mon petit jingle, mais ils aiment l'argent, machin. C'est aussi à moitié sciemment, c'est parce que je suis comme ça, et aussi un peu parce que je me dis, je peux pas juste faire de la news. Il faut faire de l'opinion, de l'analyse, avec une personnalité. Sinon, demain, il y a. Et Corben, tu dis tes articles, peut-être, en étant entraîné sur ton corpus d'articles, il aura ton humour, il aura ton ton. Oui, et les podcasts, pourquoi pas, ça arrivera peut-être. Alors, c'est quoi la seule différence ? C'est de savoir qu'il y a un vrai humain derrière et que les gens vont choisir de soutenir le travail d'un vrai humain derrière. C'est que ça, la différence. Vous pourrez avoir exactement la même chose ou à peu de choses près la même chose, 90% de ce qu'on fait Corben et moi dans nos domaines respectifs par des IA dans pas si longtemps. Allez, dans quoi ? 5 ans, 10 ans, max ? Vous pourrez avoir ce qu'on fait fait par des IA. Donc, j'ai intérêt à vous donner envie de me soutenir, moi, à vous faire culpabiliser. J'ai besoin de payer de la nourriture à mes enfants, tout ça. Donc...
la main de Corben. Ah, il y a 6 doigts, j'ai vu, il y avait 6 doigts.
Non, Corben, tu es d'accord, il faut...
Ouais, après, non mais oui, il y a un vrai humain derrière, etc. Puis on est toujours là à choisir, c'est pas des choses aveugles. C'est-à-dire, même si tu fais une image avec de l'IA, même si tu fais un article avec de l'IA, même si tu fais un podcast avec de l'IA, c'est quand même toi, à la base, qui décide ce que tu veux proposer, tu vois. Si l'image générée, c'est de la merde, tu vas pas la proposer. Si le texte, c'est de la merde, tu vas le modifier, tu vois. Donc ça reste quand même quelque chose de... Il y a un humain derrière. Après, c'est juste l'exécution qui peut être différente. Mais comme Photoshop, là, je voyais Malo dans le chat qui parlait de ça, mais c'est pareil avec Photoshop, c'est pareil avec les gens qui écrivent ouais. n'importe quoi. C'est, voilà, c'est... Tous les problèmes de l'IA existent déjà, existaient avant l'IA et vont continuer à exister. C'est vrai que ça permet de faciliter le travail, d'accélérer le truc.
Alors moi, je suis... Mais, je suis un peu quand même... Là, je trouve qu'il y a un changement de paradigme quand même. Les capacités... Oui, il y a des humains derrière, mais il y a quand même un saut. Tu vois, la quantité, le gain de productivité est tellement immense que je trouve qu'il y a ça peut pas ne pas... Enfin, ça a un impact sur l'organisation de la société et du travail dans certains domaines, dans beaucoup de domaines. Ouais. Mais je trouve que c'est pas juste « Ah bah, on ajoute Photoshop » ou peut-être que je me trompe. Disons que Photoshop... C'était spécifiquement pour les illustrateurs, tu vois, la conception d'images dans la pub, dans le machin. C'était un domaine spécifique. Là, ça affecte tellement que...
Ah ouais, mais même au niveau du code.
Enfin, ouais.
N'importe qui peut coder, c'est bon, quoi. T'as plus besoin d'apprendre à coder, quoi.
Malo nous disait tout à l'heure, je me méfie autant des gens qui disent que ça va s'effondrer que des gens qui disent « on n'a pas le choix, allons-y à fond, c'est super, il n'y a aucun danger ». Je pense que personne au monde ne dit « il n'y a aucun danger ». Personne. Même les plus enthousiastes disent « bah oui, ça va changer beaucoup de choses, donc ça va avoir des impacts, des grandes transformations, on va dire, pour rester un petit peu, comment dire, pour rester positif, des grandes transformations ». Mais oui, il va y avoir des
danger,
impacts énormes.
Danger, c'est un mot un peu
chargé, mais bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont devoir se reconvertir, comme dans toutes les grandes...
Et c'est pas un danger comme Elon Musk qui te dit que ça va tuer la moitié de l'humanité parce qu'il y a des robots.
Ah oui, voilà, non. Ça va prendre... Je pense pas que ça soit de ça qu'il parle, Malo, sur le...
Ouais,
sur
si le danger, effectivement, c'est de voir des fausses photos de je sais pas qui, enfin, de diffuser de la fausse info ou effectivement d'avoir des...
Non, mais plus que ça, le fait d'avoir le danger Internet, pour le travail, tu vois, pour les gens, des gens qui vont perdre leur boulot, qui vont plus avoir de boulot.
Oui. Bah, je vais vous donner un bon exemple, hein, parce que je place des alternants, des stagiaires, voire même des gens qui titrent, qui sont diplômés, etc. Aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est une obligation pour eux. En fait, c'est simple, s'ils ne l'utilisent pas, je les engueule, en fait. Mmh, on est plutôt, nous, dans cette démarche de « non, non, en fait, ce n'est pas normal. Sur le marché du travail, tu vas avoir des gens qui vont l'utiliser, qui seront beaucoup plus efficaces que toi. » Ce vers quoi on déporte leurs compétences, c'est plutôt sur la capacité à comprendre l'analyse, le... En gros, comme tu disais, Corben, tout le monde aujourd'hui, se faire une école de code, c'est complètement con parce que tout le monde peut coder en utilisant des copilotes et j'en passe. Et puis même, il y a des IA qui sont dédiées à ça et on va voir une révolution sans doute l'année prochaine avec plein d'outils low code, no code qui vont intégrer justement ce type de truc. Mais ce qui va faire la différence entre le bon et le mauvais codeur, comme diraient les inconnus, c'est pas ils voient un truc qui tire. Non, c'est ce qui va faire la différence entre les deux, ça va vraiment être la réflexion. C'est-à-dire que construire un produit, une application, un logiciel, évidemment, ça sera à la portée de tout le monde. Mais faire quelque chose qui va être utilisé par tout le monde ou qui va être, je sais pas, une super app que tout le monde va vouloir exploiter, tout ça, ça nécessite une réflexion. Cette réflexion, elle peut être amenée que par justement la connaissance de comment ça marche, en fait. C'est ça, en fait, l'idée, ce que je soulève là-dessus. Apprendre à coder pour apprendre à coder, effectivement, peut-être qu'on ne s'en servira plus. Mais la logique derrière, savoir où peut s'arrêter, quelle est la limite de technologique de ce que l'on peut faire avec, sur telle ou telle plateforme et ce genre de choses, en fait, c'est des choses qu'il faudra aujourd'hui encore, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, mais connaître, en fait, un minimum, même si ça ne devient que de la culture générale, mais... Ce que je veux dire, c'est que en fait, ces compétences-là ne sont pas mortes et que je faisais une intervention sur l'IA dans une école de marketing et de communication. Donc autant te dire que eux, s'il y a bien un métier qui va être impacté, c'est le leur et c'est pas demain, c'est maintenant en fait. Ouais. Et je leur disais en fait, ce qui va faire que vous allez avoir ou pas un travail, c'est le fait que vous sachiez ou pas utiliser ces technos-là. Ouais. C'est-à-dire que oui, effectivement, peut-être que vous aurez en face de vous des gens extrêmement compétents, mais qui ne pourront pas produire aussi vite que vous si justement vous êtes capable d'utiliser ces outils-là. Et c'est ce qui va faire la différence justement entre quelqu'un qui est dans l'air du temps et qui utilise tous les outils. Et je reprends toujours ma métaphore du marteau et du clou. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux planter un clou avec la main parce que c'est comme ça qu'on le fait ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser un outil qui est un marteau et on plante beaucoup plus vite ?
Non mais tu ne te rends pas compte, en fait, tous ces planteurs de clous à la main, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? enfin.
Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu vois, hein.
Bah, il y a un peu de
après
ça. Je me souviens encore de l'époque où on mettait sur le CV « Je peux utiliser Office et Windows ».
Ah ouais.
Bon, on va avancer. Cette conversation, on l'aura encore de nombreuses fois, j'en suis sûr. Je voudrais parler du fait extrêmement important pour moi que, toujours dans une étude statistique, on apprend que 47% des Américains de 12 ans et plus ont écouté un podcast le mois dernier. On était à... c'est une augmentation de 12% d'une année sur l'autre. Alors, c'est Pod News qui relaye cette information, donc c'est peut-être un peu biaisé. 76% ont écouté de l'audio en ligne ce mois-ci, mais 47% les podcasts, c'est pas mal. Ils n'écoutent pas tous le Rendez-vous Tech, malheureusement. Mais la raison pour laquelle j'évoque ce sujet, c'est un autre article qui m'a paru hyper intéressant, un article de Bloomberg, qui constate que beaucoup de présidents de grandes sociétés tech préfèrent aller parler à des podcasteurs. Alors, podcasteur, le terme est un peu large. On parle de gens comme Lex Fridman qui font ça sur YouTube, et pas que sur YouTube, mais essentiellement sur YouTube, ce genre de personnes, plutôt que d'aller donner des interviews dans la presse. Parce que ces gens-là, comme Fridman, ont une portée dans les domaines qui les intéressent et ont une portée qui est grande. Et surtout, ils ne vont pas énormément contredire ce que disent les CEO. Il est sympa, hein, Fridman. Il fait des podcasts hyper intéressants. Moi, j'en ai regardé quelques-uns qui étaient vraiment intéressants. Mais par contre, il n'est pas hyper adversarial. C'est un ingénieur qui s'est mis à parler avec ses potes et puis qui a commencé à inviter des gens de plus en plus importants. Il est un peu timide et ce n'est pas le genre de mec qui va poser les questions qui fâchent. Et de plus en plus de CEO, mais genre des Mark Zuckerberg, des Sam Altman, etc., vont chez Lex Fridman, où il y a aussi Joe Rogan, mais Joe Rogan, c'est moins reluisant, encore que, ça a une grande portée. Mais j'ai trouvé ça intéressant, l'idée de constater que, bah oui, ils évitent les journalistes qui posent les mauvaises questions. Il y a aussi un truc hyper intéressant pour l'App Store alternatif, enfin les App Store alternatifs qui vont pouvoir être installés sur l'App Store la loi l'y autorise aujourd'hui, ils sont en train d'être préparés. Il y a un App Store qui vient du monde du jailbreaking, donc un petit peu de l'illégalité, qui s'appelle The Alt Store. Et The Alt Store, il va permettre d'installer des applications diverses, mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante, c'est qu'il va permettre d'associer à l'application le compte Patreon d'un utilisateur et du coup de soutenir le développeur d'une application directement par Patreon plutôt que de voir lui faire des donations régulières et donc de débloquer des fonctionnalités supplémentaires sur l'application. Là où c'est hyper intéressant, c'est que c'est un truc auquel on n'a pas forcément pensé. Quand on se dit Apple interdit les méthodes de paiement alternatives, on se dit on aimerait payer par carte bleue directement sur le site du développeur, machin, mais pas forcément. Des solutions tierces comme notamment Patreon ou d'autres, c'est aussi une voie de paiement alternative qui était interdite par Apple. Donc oui, ce genre d'obligation imposée par l'Union européenne peut amener à des solutions innovantes, intéressantes, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Alors, chez The Alt Store, ils le connaissent depuis longtemps, mais auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui peuvent amener des fonctionnalités intéressantes pour les développeurs et finalement pour les utilisateurs aussi. Le lien à Patreon, j'y avais jamais pensé, je trouve ça hyper malin. Bon, j'aime bien Patreon aussi.
Bah après, tu sais, il y avait des paiements réguliers que tu pouvais faire via PayPal ou t'abonner via d'autres solutions. Et finalement, Patreon, c'est aussi un système qui te permet... Moi, sur Patreon... Je finance pas mal de choses, dont le Rendez-vous Tech. Mais par exemple, je finance... Alors, j'ai un Flipper Zero. Et donc, du coup, je finance un gars qui fait un firmware alternatif, un peu plus complet, on va dire, que celui d'origine. Et donc du coup, tous les mois, je lui donne je ne sais plus combien, c'est peut-être 10$. Mais j'ai quasiment 2 à 3 fois par semaine des releases de nouveaux firmware mis à jour avec des nouvelles fonctionnalités et tout ça. Et finalement, s'abonner à un service logiciel, tu vois, une appli de sport, par exemple, tu te dis, je paie via Patreon, c'est pas idiot. Et comme tu le disais, Patrick, c'est effectivement pas forcément le truc qui nous viendrait tout de suite à l'esprit, alors qu'on le fait via PayPal. Mais en fait, Patreon, finalement, ça fonctionne sur le même principe, sauf que bah, c'est peut-être plus ouvert que PayPal. Voilà, c'est surtout
ça.
Je peux
dire
fait.
Que il fut une époque bien lointaine où j'avais un PayPal pour financer mes podcasts. Ça rapportait à peu près, je ne sais plus, genre 50 euros tous les 6 mois.
Ouais.
Et
ouais.
Je partageais ça avec Dan et
un compte
et Nat.
PayPal.
On se faisait. Non, mais les gens n'y vont pas individuellement, tu vois. Alors que Patreon, c'est un écosystème qui fonctionne.
C'est ça.
Et on se faisait une pizza tous les 6 mois, tu vois, avec Dan et Nat à l'époque d'Azeroth.fr. Maintenant, avec Patreon, je peux en vivre. Et simplement parce que mécaniquement, les gens sont plus prompts à le faire.
Ah oui.
Allez, on va faire quelques petites news très rapidement avant de clôturer. D'abord, Gmail a 20 ans depuis le 1er avril. 20 ans de Gmail. On a du mal à se souvenir à quel point Gmail a transformé notre rapport au mail. C'est vraiment, c'était une révolution. C'était aussi le premier service qui faisait des invitations qu'on cherchait. Je me souviens, en 2004, c'est genre, oh, qui a une invitation Gmail ? S'il te plaît, vas-y.
C'est comme ça que j'y suis passé.
Oui, mais je ne sais plus qui m'avait envoyé mon invite Gmail. C'était sans doute chez mes amis américains à l'époque. Et c'était
la folie.
C'était
un pote qui travaillait chez Yahoo. Pour l'anecdote. Et en fait, il avait un ami à lui qui était chez Google qui l'a envoyé. Et lui, il était chez Yahoo. Il m'avait dit, si tu veux, j'en ai, mais tu ne dis pas que c'est moi.
Ouais, bien sûr. Et Gmail, ce qui était vraiment incroyable, c'était d'une part le stockage. On avait une quantité, c'était 1 giga, je crois, à l'époque. Quantité de stockage invraisemblable, donc on n'avait pas besoin d'aller effacer les documents joints tous les quelques jours. Et puis la recherche, on faisait dans Gmail la recherche. Et du coup, le mail est devenu un stockage d'informations, de trucs importants que tu gardes tous tes mails et tu peux aller rechercher les infos quand on a besoin. C'était fou, Gmail. Et c'est encore le service le plus utilisé de loin, je pense. Et puis, une petite info intéressante. Un lièvre un petit peu levé pour les élections européennes. Il y a des personnalités politiques, notamment dans l'article d'Aurore Gate sur Numérama, décidément c'est le Canada et Numérama aujourd'hui. Pour les élections européennes, on parle de Jean Lassalle et Florian Philippot spécifiquement. Ils payent l'abonnement à X, à Twitter. Et on arrive aux élections européennes. Vous savez que l'abonnement Twitter permet de remonter dans l'algorithme. Et du coup, la question est-ce qu'ils ont le droit, parce qu'on n'a pas le droit de payer de la publicité, et ben est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un abonnement X pendant la campagne ? Et c'est pareil, c'est le genre de question qu'on ne se serait jamais posé a priori.
Ouais, c'est fou.
Mais enfin, elle est importante à poser aussi, quoi. Mais c'est le genre de truc qui me fascine parce que c'est des problèmes qui n'existaient pas. Là, en l'occurrence, il y a genre 6 mois, ce problème n'existait pas. Et là, c'est un vrai problème légal, peut-être un peu à la marge, mais quand même. Donc, je sais pas. Moi, je dirais oui, en fait. Il remonte dans l'algorithme. Donc, c'est comme de la pub Twitter, finalement.
Oui.
Ouais, mais en plus, tu peux. Enfin, c'est difficile à savoir parce qu'en plus, tu peux masquer la petite coche bleue, là. Donc, au final.
Bah oui.
Il y en a peut-être d'autres qui ont été pas identifiés parce qu'ils ont enlevé la petite coche bleue et voilà quoi, tu vois.
Mais est-ce que le fait d'enlever la petite coche bleue te fait remonter mais un peu moins haut?
Bah non, je crois pas.
Je le sais bien.
C'est marrant parce que c'est pas la somme du tout, parce que c'est 10 balles par mois, ça va, je veux dire, dans le cadre d'une campagne, c'est pas. Je pense que j'espère qu'ils ont 10 balles par mois. Mais c'est vraiment sur l'effet que ça a. Et même si c'est un effet marginal, c'est pour le principe. On ne sait pas si l'effet est marginal ou pas, mais c'est pour le principe. Donc,
ouais, mais je pense que même les principaux intéressés n'avaient pas forcément pensé à ça. Enfin,
oui, c'est ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait, j'imagine. Enfin, je veux dire, pas pour l'impact sur la campagne.
Oui, je ne pense pas qu'ils aient capté ça, quoi.
Bon, intéressant à noter. Quelques articles seront dans la newsletter des articles en plus. Il y a une rétrospective du parcours de Sam Bankman-Fried qui a été condamné à 25 années de prison. Il y a aussi une étude d'un réseau de bots russes sur X, sur Twitter, qui est assez intéressant. C'est un thread Twitter de quelques tweets qui voient en fait les comptes dormants qui se réveillent tout à coup pour tous tweeter la même chose. C'est assez intéressant de le regarder. Et puis, un article également hyper intéressant sur la fin possible de la Mr Beastification du montage YouTube, qui est hyper rapide, hyper actif, pour que les gens ne quittent pas la vidéo. Et il y a des détails sur le fait que bah, peut-être que c'est en train d'arriver à son terme, que la mode est en train de passer, possiblement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces trucs intéressants, ils seront dans la newsletter, le lien vers la newsletter est dans les notes de l'émission ou alors sur notepatrick.com. Il y a des gens qui m'ont dit, mais où on trouve ces liens? Parce qu'ils écoutent sur Spotify. Sur Spotify, c'est hyper dur d'avoir les notes de l'émission, hyper dur. Donc allez plutôt sur notepatrick.com, vous aurez tous les liens vers tout ça. Et entre parenthèses, j'ai mis en place newsletter.notepatrick.com. Qui vous permet d'avoir accès aux archives des trois dernières newsletters. Je voulais le faire depuis longtemps. Moi, j'aimerais que toutes soient archivées. Ce n'est pas possible avec le service que j'utilise. Mais vous avez accès donc aux archives des trois dernières newsletters si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. C'est notepatrick.newsletter.com. Il faudra que je mette le lien quelque part. Fanny, fais-m'y penser si tu es encore là. Voilà pour les news de cette semaine. Dites-moi, 1h44, décidément. Quand c'est bon, le temps passe vite. Corben, est-ce que le temps est passé vite pour toi ?
Ouais, ça va, c'est passé vite.
Alors,
c'est pas ennuyé.
Si tu veux passer encore plus de temps avec les auditeurs, dis-leur où ils peuvent te rejoindre.
Eh bien, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, twitch.tv/corbenfr, et puis sur mon blog, corben.info.
Est-ce que tu lances ton Twitch dans 15 minutes, là ?
Ouais, c'est ça, 15 minutes.
Très bien. Bon, bah, on te fera un petit raid, du coup.
Mais restez avec Patrick, s'il est toujours là. Restez
non, mais non, vous restez jusqu'à la fin. Et après,
je veux pas voler des fans de Patrick.
Non, mais après, on raidera Corben tous ensemble.
C'est ça. Voilà, vous
non, mais vous restez. Hey, ceux qui partent pour aller chez Corben avant que j'ai arrêté le stream.
J'en ai repéré quelques-uns.
J'ai les noms. Cédric, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Tiens, le plus simple, je vais faire la pub aussi pour le Twitch de l'école. Donc, twitch.tv/EpitechDigitalSchool. C'est Laurent, alias Deguin, et moi-même qui nous occupons de cette chaîne-là. Il y a le programme dessus. Je suis en live tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi matin. Et le mercredi, c'est à 12h30. Je fais exprès de prendre 12h30 quand ni le mardi ni le jeudi parce qu'il y a Patrick. Et du coup, comme je regarde moi-même le rendez-vous jeu ou le rendez-vous tech, bon, bah, fatalement, je veux pouvoir y assister. Donc, je choisis un truc. Entre les deux, c'est des petits streams qui durent une heure à peu près. Et je fais ça, voilà, tous les jours. Accompagné Magnifique. D'étudiants parfois. Et du coup, c'est assez cool.
Très intéressant. Merci beaucoup, Cédric. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Vous connaissez le site web notepatrick.com. C'est très simple, il y a tous les liens là-dessus. Il faudra que je mette donc le WhatsApp et le truc de la newsletter. Là. On le mettra dans les liens, dans les notes de l'émission cette fois-ci, mais il faudra que j'update le site à un moment. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez mon travail, si vous préférez NotePatrick à BotPatrick, il faudra que je fasse une guerre. Il faudrait que j'ouvre un Patreon aussi pour BotPatrick, mais c'est moi derrière. Vous voyez, c'est genre, je crée une sorte de... Et qu'on s'insulte sur Internet, tout ça, le buzz entre moi oui. et ma personnalité virtuelle. Ça serait intéressant. Pour le moment, patreon.com/rdvtech. Qu'est-ce que j'ai dit ? NotePatrick ? Non, c'est patreon.com/rdvtech pour soutenir mon travail. Je vous remercie tous et toutes de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous jeu. J'espère, et mardi prochain sinon. Ciao à tous et à toutes. Bisous.
Ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.